7h, 9h.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 juin et ça commence avec beaucoup de soleil. C'est le grand jour aussi pour tous les futurs bacheliers. On pense à eux ce matin puisque dans une heure, ils passeront l'épreuve de philo. On sera en direct devant un lycée des Hauts-de-Seine dans le journal de 8h. La reconstitution du meurtre d'Alexia Daval est en cours ce matin en Haute-Saône. Elle se déroule dans le pavillon du couple. Top départ pour le service national universel. 2000 jeunes de 15 à 16 ans l'expérimentent pour un mois. À partir d'aujourd'hui, à 7h45, je reçois Manon, elle fait partie des premiers engagés volontaires et elle a 16 ans. Le carton inattendu de la Coupe du Monde féminine de foot, match à guichet fermé, audience télé record, notre dossier complet à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. Voilà pour le programme, j'espère que vous vous réveillez tranquillement, il va faire beau aujourd'hui, on sourit, on est ensemble jusqu'à 9h, bon réveil à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi matin, 7h, très bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nicolas Aliagas.
Quel plaisir de vous retrouver, ma chère Hélène Zélani.
Plaisir partagé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
L'actualité continue à la une ce matin.
Une reconstitution en présence des parents de la victime. Jonathan Daval doit reproduire les gestes qui ont causé la mort de sa femme Alexia. Nous serons à Grès-la-Ville en Haute-Saône dès le début de ce journal. Des candidats de 11 à 77 ans, première épreuve du bac ce matin. La philo sur fond de menaces de grève de la surveillance. Et puis partira pas. En tout cas, les dirigeants du PSG ne s'opposeraient pas à un départ de leur superstar Neymar.
Europe 1.
Les enquêteurs arriveront-ils à mieux comprendre ce qui s'est passé en octobre 2017 dans le village de Grès-la-Ville en Haute-Saône? Jonathan Daval a avoué, mais il reste encore des points à éclaircir. La reconstitution du meurtre d'Alexia Daval se tient donc en ce moment même dans l'ancien pavillon du couple. Vous êtes à Grès, Arthur Elmbaché.
Oui, un peu plus loin dans la rue où je me trouve, dans un périmètre interdit d'accès, gardé par les gendarmes, à distance des objectifs des caméras, se rejoue la scène de la mort d'Alexia, les gestes, tous les gestes de la bagarre mortelle, photographiés un à un, avec dans le rôle, si on peut dire, de Jonathan Daval, et bien Jonathan Daval lui-même, celui d'Alexia étant assuré par une gendarme, le tout, ce qui donne, vous l'imaginez, un climat, une ambiance forcément très très tendue, sous les yeux de la juge, du médecin légiste, des avocats et des parents d'Alexia, qui ont décidé finalement d'être là ce matin. Ils sont défendus par maître Jean-Marc Florent.
Le fait, je pense, d'être, de revoir sa maison, qu'il n'a pas vue, à laquelle il est attaché, de voir les beaux-parents, sa belle-sœur, son beau-frère, et puis revenir sur les lieux où il a transporté Alexia, ça peut-être raviver de nouveau sa mémoire et lui permettre d'avancer sur le chemin de la vérité.
L'enjeu ici, c'est d'essayer d'y voir plus clair sur la volonté ou non de Jonathan Daval de tuer Alexia cette nuit d'octobre 2017. Ensuite, tout le cortège prendra la direction du bois des Moulins, à 4 km d'ici, l'endroit où le corps carbonisé de la jeune femme a été découvert. Jonathan Daval assure depuis le début que ce n'est pas lui qui a mis le feu au cadavre de son épouse.
Arthur Elmbaché, vous êtes à Grès-la-Ville en Haute-Saône pour Europe 1. La reconstitution devrait durer jusqu'en fin de matinée. Trois hommes soupçonnés d'animer la plus importante plateforme du Darknet francophone ont été mis en examen hier soir. Cette place de marché illicite sur Internet qui vendait drogue, armes ou encore faux papiers a été démantelée la semaine dernière. Et puis toujours aucune trace du chauffard qui a renversé deux enfants il y a une semaine à Lorient. L'un est mort, l'autre toujours dans un état très grave. D'importants moyens sont déployés pour tenter de le retrouver.
Europe 1, il est 7h03.
Ils n'ont peut-être pas très bien dormi cette nuit, les quelques 740 000 candidats qui passent la première épreuve écrite du bac ce matin.
Oui, dans une heure, ce sera l'épreuve de philo, en tout cas pour les bacs généraux et techno, pour les bacs pro, coup d'envoi du français à 9h30. Des épreuves qui pourraient être perturbées par des grèves de la surveillance, même si le ministre de l'Éducation se veut rassurant. Annie, prof de lettres en grève au lycée Rimbaud à Istres, a été convoquée pour surveiller la philo.
Pour montrer à mon administration que je suis gréviste, eh bien, je me présenterai au lycée à l'heure prévue, hein, à 7h30, pour dire voilà, je suis gréviste, ne comptez pas sur moi pour la journée. Ça me permettra aussi de rencontrer mes collègues, dont certains ont déjà décidé qu'ils seraient grévistes, d'autres non. Il y aura peut-être une AG. Et il faut préciser que si d'aventure, certaines épreuves ne pouvaient pas se tenir dans certains établissements, ces élèves-là seraient reconvoqués. Oui, on est dans une situation totalement exceptionnelle. Alors, ça fait toujours un peu tarte à la crème de dire ça, parce qu'on a l'impression de le dire chaque fois. Mais cette grève est une journée essentielle de la mobilisation de l'année.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents et aux élèves? Ils pourraient ne pas comprendre.
On est en grève pour eux. Ça n'est pas notre but de perturber le bac, notre but c'est de le défendre.
Voilà une prof de lettres en grève au micro Europe 1 de Nathalie Chevance.
et sur Europe 1. Et sur Europe 1, nous vous proposons un corrigé du bac philo en Facebook Live à midi avec les équipes du magazine Philosophie Magazine, justement.
Des grêlons gros comme des balles de ping-pong, de nombreux agriculteurs auront beaucoup de mal à se remettre des violents orages de samedi. Ils attendent avec impatience la déclaration d'état de catastrophe naturelle, notamment dans la Drôme qui a été la plus touchée. Aurélien Esprit, arboriculteur à Pont-de-l'Isère, a quasiment tout perdu. Il est encore groggy ce matin.
On commence à ouvrir les yeux, on commence à comprendre ce qui s'est passé et on se dit que c'est fini pour nous. Tout est fini, j'ai perdu toute ma récolte. On avait espoir de sauver encore quelques abricots, mais c'est tout foutu. Les pommes, c'est haché, c'est plié. Il n'y a plus rien à faire. Il faut réfléchir comment payer les factures, réfléchir comment se protéger l'année prochaine. Et même peut-être pire, il va peut-être même aller faire tomber les fruits qui sont incommercialisables pour pas qu'ils restent collés sur les arbres et pénalisent la récolte de l'année prochaine. Et ça, c'est juste horrible parce qu'on n'a pas du tout envie de mettre la tête dans nos champs et mettre des moyens qu'on n'a pas. Moi, je n'avais pas d'assurance cette année, pour la bonne simple raison que j'avais besoin de trésorerie et les assurances sont tellement coûteuses, tellement inaccessibles que cette année, j'avais fait le choix de m'enlever de mon assurance. Voilà, parce que tout simplement, je n'avais pas le choix, donc je ne vais pas appeler mon assurance parce qu'elle va me dire « Mais oui, mais monsieur Esprit, vous n'étiez pas assuré ». Voilà, c'est bien ça la grosse aussi inquiétude.
Voilà la détresse d'un producteur de fruits. Un joint ce matin pour Europe 1 par Yasmina Katou.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal d'Hélène Zélani. À peine terminé les européennes, les yeux sont tournés vers les municipales. Marine Le Pen est prête à discuter avec les Républicains. On vous dit tout dans quelques instants dans le journal d'Hélène Zélani.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, le Rassemblement national en ordre de bataille pour les municipales.
Oui, le parti tenait ce week-end à La Rochelle un conseil national dédié aux élections de mars prochain. Marine Le Pen a appelé à des alliances contre Emmanuel Macron, mais pas question pour autant de se renier Adrien Beck.
Des alliances, mais pas à n'importe quel prix. D'abord, séduire les anti-Macron. Devant micros et caméras, Marine Le Pen appelle au rassemblement, se dit femme de compromis, ouverte à la discussion.
À tous ceux qui, chez LR, n'ont pas envie d'être embrigadés dans l'armée d'Emmanuel Macron. Nous leur disons que nous sommes prêts à discuter avec eux. Nous sommes prêts à mettre en œuvre des plateformes d'action communes.
Discussion à droite, à gauche aussi, mais entre les lignes, la patronne du RN prévient.
Nous sommes le Rassemblement national, le premier parti de France. Ça n'est pas un slogan.
Autrement dit, on n'a jamais vu un radeau tirer un paquebot, mot d'un responsable du parti. Pas question donc de s'effacer face à des alliés. Priorité aux candidatures estampillées RN, dit le directeur de campagne Gilles Pénel.
Commençons d'abord par constituer nos listes et puis après on discutera. N'oublions pas qu'au municipal, dans l'immense majorité des cas, les alliances se font entre les deux tours.
Avec un objectif, une liste dans chaque commune de plus de 20 000 habitants. La Rochelle, Adrien Beck, Europe 1.
Retour à la normale en Amérique du Sud après une méga panne électrique. Près de 50 millions d'Argentins et d'Uruguayens privés de courant pendant des heures. Pour l'instant, mystère sur l'origine de cette panne.
Allez, on va parler football maintenant, Hélène, avec d'abord les filles qui jouent sans trop de pression ce soir à Rennes.
Oui, les Bleus, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial, affrontent le Nigeria. Un nul leur suffit pour décrocher la première place du groupe. Soirée spéciale, évidemment, à suivre sur Europe 1 dès 20h. Côté garçon, ça bouge autour de Neymar, Jérôme Lacroix. L'équipe nous apprend ce matin que le PSG serait prêt à le laisser partir.
Oui, et c'est même depuis Doha que la porte s'est entrouverte. Décision venue des propriétaires même du PSG au Qatar. Le PSG, un club qui en aurait assez de payer la fracture, les fractures même. Ces deux dernières saisons, Neymar blessé, forfait pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Puis Neymar qui porte un coup à un supporter adverse. Puis Neymar qui veut rentrer au Brésil un peu quand ça lui chante. Bah, tout ça aurait fini par lasser les dirigeants parisiens. Alors la star n'est pas poussée vers la sortie. Hein, oui. Mais aborder la question d'un départ n'est plus du tout tabou. Et en croire le journal L'Équipe ce matin, Neymar lui aussi serait lassé de sa situation à Paris. Il s'en serait ouvert à des proches. Ça sent le gâchis. Le gâchis à 222 millions d'euros, montant record déboursé par Paris à l'été 2017. D'ailleurs, le PSG ouvrira des négociations si et seulement si une somme quasi équivalente est proposée. Pas évident, parce que Neymar aurait aujourd'hui perdu environ 30% de sa valeur en raison des blessures.
Puis il y a son affaire personnelle aussi. Il y a l'histoire du viol dont il est accusé. Il y a aussi la Saouda. En fait. Ce manque, ils ont le manque du pays, les Brésiliens. Ouais, vous êtes d'accord, Jérôme Lacroix?
Oui, absolument. Les Brésiliens, il faut toujours un peu de temps pour s'acclimater. Enfin, là, ça fait 2 ans quand même, Neymar.
Voilà, feuilleton Neymar, loin d'être terminé. Merci, Jérôme Lacroix.
C'était le journal d'Hélène Zélani. Merci, Hélène. À demain.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h10. Nikos, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot.
Alors, il est où ce matin, Martin Fenot? Bonjour, Martin.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Alors là, je vous appelle d'une petite station de ski sur le plateau du Vercors, ouais. À 1000 mètres d'altitude. Vous l'entendez, il y a un troupeau de moutons là qui broutent oui, en ce moment au pied des télésièges.
Magnifique.
Exactement, bah, c'est une station familiale, hein, mais qui vient d'être rachetée par une star mondiale, Tony Parker. Eh oui, notre ancien basketteur français qui a pris sa retraite à 37 ans, vous le savez, il y a quelques jours. Ouais. Il vient d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros ici à Villard-de-Lans. C'est le nouveau propriétaire de la station et les habitants ont encore du mal à le croire.
On ne s'attendait pas à ce qu'un jour il arrive un personnage comme lui, quoi. Il est de renommée presque mondiale, dirons-nous. Hein. Il sera dans le coin, il sera propriétaire. Donc, ça me fera plaisir de le voir en personne. Quoi. Parce qu'on l'a toujours vu qu'à la télévision. On va faire en sorte qu'il ne soit pas déçu.
Mais pourquoi serait-il déçu, Tony Parker, comme le dit cette dame ?
Bah, parce qu'ici, en fait, ce n'est pas une grande station mythique comme Courchevel ou l'Alpe d'Huez. D'ailleurs, les habitants n'ont aucune envie que ça le devienne. Ouais. Écoutez Guillaume Rouet, ancien moniteur de ski, il a monté le projet avec Tony Parker.
Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui étaient un peu réfractaires au fait que notre petit Vercors va devenir immense parce que Tony Parker arrive. C'est pas parce que Tony Parker est là que ça va être Hollywood ou Disneyland, bien au contraire. On va pas bétonner le Vercors pour détruire la montagne.
J'espère que non, mais que va devenir la station ? Ils veulent quoi ? C'est quoi le projet ?
L'idée, en fait, c'est de développer les activités toute saison, donc pas seulement le ski l'hiver, mais aussi le VTT, la randonnée. Parce qu'aujourd'hui, à la mi-juin, il n'y a aucun touriste ici et c'est presque angoissant pour Agathe, une jeune architecte locale.
Ce qui est dur, c'est les stations vides, donc ce serait bien qu'il se passe quelque chose. Donc s'il veut venir taper à notre porte, il n'y a pas de souci. Tony Parker, on t'attend.
Tony Parker, attendu de pied ferme. On sait s'il a prévu de s'y rendre bientôt, Martin Fenon ?
Alors, il est passé discrètement il y a quelques jours, juste avant de prendre sa retraite. Ce qu'on sait, c'est qu'il viendra skier cet hiver et ce sera une grande première pour lui. Parce qu'en tant que joueur pro, bah, ses mains, ses jambes étaient assurées. Donc, il avait interdiction jusqu'à aujourd'hui de chausser des skis.
Bah là, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Hein. Bon, allez, les premières descentes de ski du jeune retraité Tony Parker, c'est à suivre bientôt. Et ce sera donc à Villard-de-Lans. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis la station dont il est désormais propriétaire. Merci.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Nicolas Barré est déjà en studio. De quoi on parle ? On parle de sous ce matin ?
Oui, de Facebook qui va lancer sa propre monnaie, figurez-vous.
Bonne chose ou mauvaise chose ?
Ah, vous allez voir.
Quel teasing. 7h20, le carton de la Coupe du Monde féminine de foot, des matchs à guichet fermé, des audiences télé records. La compétition surpasse toutes les prévisions. Dossier complet dans Europe 1. Va plus loin dans quelques instants. Bon réveil.
Les 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
La reconstitution du meurtre d'Alexia Daval se tient en ce moment. En Haute-Saône, son mari Jonathan Daval a avoué le meurtre, mais il reste plusieurs zones d'ombre. Première épreuve écrite du bac ce matin, la philo pour les bacs généraux et techno, et le français pour les candidats au bac pro. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, assure que malgré les menaces de grève, de la surveillance, l'examen aura lieu normalement. Près de 2 millions de manifestants habillés de noir, ça s'est passé hier dans les rues de Hong Kong. Ils réclament toujours le retrait du projet de loi sur les extraditions vers la Chine, pour l'instant suspendu.
Europe 1. Économie maintenant, Nico, c'est l'édito éco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Nicolas Barré est avec nous, il est le directeur de la rédaction du journal Les Échos, il est toujours bien informé. Il y a quelques semaines, il nous le révélait à ce micro, c'est parti, Facebook va lancer sa propre monnaie.
Et ce sera une monnaie mondiale, forcément, puisque le réseau social compte 2,3 milliards d'utilisateurs. Facebook mûrit ce projet depuis longtemps, il a décidé de ne pas y aller tout seul, mais avec un groupe de 27 partenaires. Alors parmi eux, vous avez les spécialistes des paiements, Visa, Mastercard, PayPal, mais il y a aussi Uber, eBay, Booking, Spotify, etc. Et également Iliad, la maison mère de Free pour la France. Tous ces partenaires disposeront d'un serveur au sein de l'architecture informatique de cette monnaie, parce que c'est une crypto-monnaie, un peu comme le Bitcoin. Et Facebook espère attirer une centaine de partenaires d'ici la fin de l'année dans ce projet. Cette monnaie d'ailleurs qui s'appellera le Libra, enfin en tout cas c'est le nom de code aujourd'hui.
Libra. À quoi ça sert d'avoir sa propre monnaie ?
Ben, concrètement, ça permet à tous les utilisateurs de Facebook, mais aussi de WhatsApp, d'Instagram, etc., de faire des transactions entre eux via des portefeuilles numériques. L'intérêt pour les partenaires, par exemple pour Uber ou Spotify, c'est un accès facilité aux utilisateurs des réseaux sociaux que Facebook connaît évidemment par cœur. On peut imaginer qu'à terme, Facebook et ses partenaires lanceront aussi des produits financiers basés sur le Libra, bref, qui concurrenceront un jour directement les banques. Et avec cette monnaie électronique, Facebook et ses partenaires, qui seront de plus en plus nombreux, se donnent les moyens de créer en fait tout un écosystème, leur propre univers économique en fait.
En concurrence directe alors avec les États.
Alors est-ce que, voilà, c'est la grande question, est-ce que c'est la fin des États-nations dont un des privilèges majeurs c'est de battre la monnaie? C'est la grande question. Tel qu'il est conçu par Facebook, le Libra sera rattaché à un panier de devises, l'euro, le dollar, le yen, etc. Il va donc pas se substituer à ces monnaies, mais les concurrencer en fait par l'usage. Ce qui est inédit, c'est-à-dire s'il est plus pratique demain de payer sa course en Uber ou son abonnement Spotify en Libra plutôt qu'en euros, c'est évidemment un défi pour nos monnaies. Le Libra sera géré indépendamment de Facebook par une fondation basée à Genève. On est bien en train d'assister vraiment à la naissance d'une monnaie privée susceptible de rivaliser avec les plus grandes devises. Il y en aura d'autres, hein, Amazon, Microsoft, Alibaba ont aussi des projets de ce type dans leur carton. Et pour les États, pour les États-nations, eh bien oui, c'est un défi majeur, c'est presque un défi existentiel.
Oui, c'est historique ce qu'on est en train de vivre.
On n'a jamais vu ça.
On ne connaît pas encore les conséquences possibles, tant au niveau politique qu'au niveau de la crise mondiale.
Ce sera majeur en tout cas.
Merci beaucoup Nicolas Barret, c'était l'édito Écho.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h19, l'heure d'Europe 1 va plus loin. Ce soir, Nikos, nos Bleus jouent leur dernier match de groupe face au Nigeria.
Les Bleus qu'on va retrouver en 8e de finale, quoi qu'il arrive. Ce matin, on va essayer de décrypter le succès ahurissant, il faut bien le dire, de ce mondial de foot, car la compétition, en fait, surpasse toutes les prévisions. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Vous travaillez au service des sports d'Europe 1 et le mondial est loin d'être fini, mais on a déjà une certitude, c'est déjà un carton.
Ouais, première marque de l'engouement, les audiences télé. Chacun des deux matchs des Bleus a réuni plus de 10 millions de téléspectateurs. On est au niveau d'audience des garçons l'an passé pour le mondial en Russie, dont certains matchs réunissaient 8-10 millions de personnes. Mmh. Un engouement que même TF1 n'avait pas vu venir. Le diffuseur qui a d'ailleurs augmenté en panique ses tarifs de pub, étant donné le succès des Bleus, reconnaît François Pélissier, le directeur général de la publicité et des sports.
Ces scores d'audience exceptionnels, on savait que ce serait un bel événement. En revanche, peut-être qu'on ne s'attendait pas à ces niveaux aussi exceptionnels d'audience dès le démarrage, près de 10 millions de téléspectateurs sur TF1. On a revu les tarifs publicitaires, c'est public, ils ont été augmentés de 50 à 60% sur les matchs de l'équipe de France, parce que, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, je reconnais qu'on ne s'attendait pas à ça.
François Pélissier interrogé par Christophe Lamarre.
Je vous confirme, on est content, GTF.
On a donc la confirmation d'un point de vue purement économique. Le mondial féminin est d'ailleurs beaucoup plus rentable que celui des garçons, puisque les droits de diffusion coûtent 5 à 10 fois moins cher. Enfin, il n'y a pas que les Bleus qui cartonnent. Il y avait plus d'1 400 000 personnes devant la télé, par exemple, pour Angleterre-Argentine vendredi.
C'est aussi un premier indicateur économique parce que l'engouement se mesure aussi dans les villes qui accueillent des matchs. C'est le cas à Reims notamment. Écoutez ce reportage de Jean-Jacques Herry juste avant la rencontre Italie-Jamaïque.
La Coupe du Monde à Reims, elle commence sur le parvis de la gare. À quelques heures d'affronter les Italiennes, les supporters jamaïcains sont bien là. Ils brandissent le drapeau jaune et vert. Parmi eux, une maman particulièrement émue, Tracy. Sa fille Ashley Kshim est la numéro 8 des Reggae Girls.
Je n'ai jamais mis un pied en Europe, c'est la première fois. À être ici, ça ne semble pas réel.
Vous savez, ici, c'est la capitale du champagne.
Ah oui, je sais.
Vous allez boire un verre si la Jamaïque gagne?
Ah, peut-être une bouteille.
Jean-Jacques est bénévole. Reconnaissable à sa casquette bleue, il accueille les supporters.
Au fil des matchs, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus au courant qu'il y a la Coupe du Monde et s'y intéressent de plus en plus, posent plus de questions qu'avant.
Une fièvre footballistique au féminin qui ravit les commerçants du centre. Les hôtels sont pleins, sourit Ludovic, le patron d'une brasserie.
Ça se passe très très bien pour nous, super retombée. Je pensais pas que ça allait ramener autant de monde que ça. Tout le monde est joyeux, c'est bon enfant. Même ce matin, on a vu pas mal de Jamaïcains dans les rues quand on est arrivé au travail et ça monte en puissance.
Et s'il fallait une dernière preuve pour s'en convaincre, il n'y a plus de billets pour le 8e de finale. Dans une semaine, au stade d'Auguste Delaune, il se jouera à guichet fermé.
Reportage signé Jean-Jacques Herry, avec nous en studio Simon Rubin. Est-ce qu'on ressent cet engouement au sein des clubs de foot?
Alors oui, et c'est ça qui est très surprenant parce qu'en général, il faut attendre le milieu de l'été, la rentrée pour avoir des remontées sur les inscriptions. Mais d'ores et déjà, des dizaines de clubs voient affluer des jeunes filles passionnées. Un exemple au Racing, un club omnisport des Hauts-de-Seine. On compte 1000 licenciés foot, 155 filles. Et bien depuis le début du mondial, 100 jeunes filles supplémentaires sont déjà venues toquer à la porte. Alors évidemment, ça va poser des problèmes parce que les clubs de foot sont déjà pleins. 2021. Il va falloir gérer l'afflux de nouvelles licenciées. On compte aujourd'hui 170 000 licenciées féminines. La fédération visait 200 000 licenciées filles et femmes en 2020, mais on peut être certain que ces prévisions seront dépassées. Et certains cadres fédéraux anticipent déjà 250 000, 300 000 licenciés dès le mois de septembre.
Merci beaucoup Simon Rubin. Et puis, allez les Bleus, allez les filles, vive le foot. Elles affrontent ce soir le Nigeria et ce sera en direct sur Europe 1, évidemment. Simon Rubin avec Jean-Jacques Herry, nos journalistes, pour ce dossier Europe 1 va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il arrive, Anissa Mbida, il finit sa pomme, il croque la vie, il croque aussi les innovations. Dans quelques instants, il va nous parler des péages du futur. À tout de suite.
Il est 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anissa Mbida, Nikos.
Pour plusieurs d'entre vous, les grandes vacances arrivent à grands pas, avec des voyages en voiture, l'autoroute, les interminables files d'attente au péage. Mais tout ça, ce sera bientôt terminé, parce qu'on n'aura plus besoin de ralentir pour payer son péage.
Cela peut-il arriver ? Tout simplement parce qu'il n'y aura plus aucune barrière au péage. On passera simplement sous un portique, équipé avec des caméras et des capteurs. Ils vont lire la plaque d'immatriculation et on recevra directement la facture chez soi. Donc ça sera encore plus rapide, vous savez, que les passes télépéages, puisqu'il n'y aura même pas besoin de ralentir. On pourra rester à 130 km/h. Donc ça devrait quand même pas mal fluidifier la circulation. Ça existe déjà chez nos voisins européens, au Portugal notamment.
Ça va arriver
progressivement. En France.
Tu payes et tu ne le vois même pas. Sur quelles autoroutes ça va se passer ?
Alors c'est en test sur l'autoroute A4, c'est en Moselle près de Metz, également sur en Indre-et-Loire au nord de Tours sur l'A10, mais le premier gros chantier, ça sera de supprimer toutes les barrières des 5 péages des autoroutes A13 et A14 en Normandie, c'est celle qui relie Paris, Le Havre et Le Camp.
D'accord.
Et Caen, pourquoi je dis Le Camp ? Ouais. Et les tests commencent en ce moment et l'ouverture est prévue en 2021.
Ça va venir assez vite. Est-ce qu'on peut quand même, si on a envie de payer en liquide, payer ?
Alors c'est possible, mais uniquement chez certains commerçants de certaines aires d'autoroute, donc c'est vraiment pas très pratique. En plus, il y a un problème des plaques clonées. Un jour, on pourrait même vous demander de payer alors que votre voiture n'a jamais passé sous un portique. Ouais. Et là, il faudra prouver que c'était pas sa voiture qui a été flashée sous le portique. Ça sera pas simple. Donc certes, il y aura moins d'attente, mais on risque aussi d'avoir beaucoup de fraudes.
Oui, c'est-à-dire qu'on est flashé, photographié, enregistré.
On ne serait peut-être pas photographié, c'est ça le problème.
Ah bon ?
C'est ça le problème. Donc quelqu'un peut cloner votre plaque et passer sous le portique et vous faire payer.
Anissa Mbida pour l'innovation du jour. Merci Anissa.
L'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans 2 minutes, le journal de Céline Kallmann. Tout de suite la météo avec Laurent Cabral.
Les gens s'apprêtent peut-être à sortir de chez eux. À la maison, vous faites quoi ? Vous êtes déjà à l'extérieur, il fait beau. Eh bien, confirmation avec le grand Mamitou, Laurent Cabrol.
Oui, avec surtout le grand Mamitou, c'est le soleil. C'est lui qui est venu nous retrouver aujourd'hui. Et il faut en profiter, alors je ne vais rien dire, puisque nous n'avons pratiquement aucune nuance à installer. Quelques brumes sur le nord de la Bretagne, pas grand-chose, et une tendance orageuse dans les Alpes. Mm-hmm. Mais vous donnez des températures, 33 degrés sous abri, c'est-à-dire à l'ombre, à Avignon, 32 à Toulouse, 30 à Bordeaux, à Lyon et Cognac, à Limoges, Marseille et Poitiers, entre 28 et 29. Il sera 27 à Paris, 27 à Dijon, Nantes et Épinal, 26 à Lille et Clermont-Ferrand, ouais. 25 à Münster, 21 à Caen et 24 degrés tiens à Nice et à Roscoff. Roscoff, c'est une petite commune du Finistère qui est géniale parce qu'on y rencontre là-bas des plantes tropicales.
Ah bon ?
Grâce au Gulf Stream, c'est vraiment un endroit exceptionnel.
L'île de Batz.
À l'île de Batz, c'est tout à côté, c'est à 15 minutes de Roscoff et nous avons dans ce secteur un climat qui est un climat tropical. Il faut aller voir.
Spasiba, Laurent Cabrol. Je ne sais pas, ça faisait russe. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Nous sommes le lundi 17 juin, il est 7h30.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal de 7h30 est présenté par Céline Kallmann. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. La récolte des fruits devait commencer ce matin chez de nombreux producteurs de la Drôme. Mais hier, les saisonniers ont été appelés par des agriculteurs dévastés. Plus la peine de venir, il n'y a plus rien à cueillir. Des grelons gros comme des balles de golf ont ravagé des cerises, des pêches, des pommes ou encore des abricots. En Savoie également, la grêle a détruit une partie du vignoble d'Apremont, le reportage de Rémi Pierre.
Ça a duré à peine une dizaine de minutes, mais le passage d'une véritable tornade de grêlons dans la cluse de Chambéry a ravagé les vignes, particulièrement celles situées sur les pentes du granier qui abrite l'appellation Apremont. Yannick Huchet ne peut que constater les dégâts sur ces cèpes.
Des feuilles qui sont hachées, des raisins qui sont par terre, les rameaux de l'année là qui sont matraqués, mitraillés. Sur un rameau, vous avez des dizaines d'impacts qui va nous empêcher de tailler cet hiver aussi. À ce niveau de dégâts, bon, moi j'ai 40 ans, j'avais jamais vu ça.
Lui a perdu plus de 50% de ses vignes, mais ce sont tous les domaines viticoles de l'appellation qui sont mal en point. Pierre Vialet, président du comité interprofessionnel des vins de Savoie.
Là, c'est 300 hectares de vignes touchés entre 100% et 40%. Nous sommes au moment de la floraison, donc des conséquences colossales pour la récolte 2019, comme on peut l'imaginer, mais aussi malheureusement pour les vignes touchées à 100% pour la future récolte 2020. Et ça fait aussi beaucoup, on l'a ressenti hier, sur le plan psychologique.
Sur les 45 exploitations touchées, une trentaine est menacée de disparition, sans être directe ou indirecte. Pour sauver ce qui peut l'être, tout le monde attend ici la déclaration d'état de catastrophe naturelle. À Chambéry, Rémi Pierre, Europe.
Et justement, hier, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a annoncé que l'état de catastrophe naturelle serait décrété d'ici demain.
Moins de 30 minutes maintenant avant le début de la première épreuve écrite du bac.
Le stress est sans doute à son maximum avant la découverte du sujet. On pense aux élèves, mais aussi à leurs parents qui stressent tout autant, voire plus. Une épreuve ce matin marquée par la mobilisation annoncée de plusieurs syndicats pour protester contre la réforme du bac qui sera appliquée l'année dernière. Benjamin Péter, vous êtes en direct de Toulouse devant le lycée Stéphane Hessel. Benjamin, le collectif des Stylos Rouges vient de mener une action devant l'établissement.
Oui, une trentaine d'enseignants habillés de noir sont postés devant ce lycée Stéphane Hessel à la pointe de la mobilisation contre la réforme du bac et de Parcoursup depuis plusieurs mois à Toulouse. Ils ont affiché de faux sujets du bac philo. On peut lire « L'école peut-elle s'imposer par la confiance ?» référence directe à la loi pour l'école de la confiance. Ou encore « La pensée est-elle soluble dans les éléments de langage ?» des sujets qu'ils adressent directement au ministre de l'Éducation. Mais l'idée ce matin, c'est d'être visible, mais sans perturber les élèves, comme l'explique Carole du collectif des Stylos Rouges.
On est là pour que les épreuves se déroulent correctement, mais montrer notre désaccord. Ça sera le dernier bac tel qu'on le connaît, le dernier bac égalitaire qui sera le même pour tous les élèves en France, puisqu'à partir de l'année prochaine, ça ne sera plus les mêmes choses. Les élèves, ils ont déjà été perturbés par Parcoursup. Oui, ça va les stresser, mais étant donné qu'on n'a pas prévu de les bloquer et de les laisser librement aller à leur épreuve, beaucoup moins donc.
Voilà, alors la manifestation a plutôt l'air d'amuser les lycéens qui sont en train d'entrer dans l'établissement. Pas de quoi les perturber visiblement. Les enseignants vont ensuite rejoindre le rectorat où une manifestation est prévue à 8h.
Merci Benjamin Péter en direct de Toulouse pour Europe 1. C'est un moment clé dans une affaire qui a ému toute la France. Depuis tôt ce matin a commencé la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval à Grès en Haute-Saône. Jonathan Daval, le mari qui a avoué après 6 mois de mensonges le meurtre de sa femme, est arrivé sur place vers 5h. Les parents et le beau-frère d'Alexia sont également présents. La reconstitution devrait durer jusqu'en fin de matinée. Il avait été séquestré durant 7 semaines en Espagne. Un marchand de biens toulousain avait été forcé à vider ses comptes. Le procès de ses ravisseurs présumés s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Bordeaux. Dans le box, 3 des membres de cette équipe. L'un est toujours en cavale, un autre s'est suicidé en prison. Stéphane Place.
Des voix, seulement des voix, qui pendant 7 semaines ont fait vivre un véritable cauchemar à Christian Beck. Pour la première fois tout à l'heure, à l'ouverture du procès, il verra les visages de ces hommes accusés de l'avoir séquestré. Tout commence par un banal rendez-vous pour la vente d'un terrain proche de Toulouse en mai 2015, un guet-apens. La bande armée et cagoulée jette l'homme d'affaires toulousain dans le coffre de sa propre BMW, trimballé de cave en cave, humilié, menacé. La victime se retrouve en Espagne aux mains de ses geôliers qui exigent ses codes bancaire, qui lui impose des virements, l'ouverture de comptes, qui lui font acheter des dizaines de kilos d'or. Bref, une extorsion méthodique. L'enfer jusqu'à sa libération à Malaga début juillet. Plus d'1 million d'euros versés, mais ce n'est pas fini. Il faut continuer à virer de l'argent, ne rien dire. La peur des représailles tétanise le malheureux Christian Beck. C'est le banquier du quinquagénaire qui donnera l'alerte, un signalement qui déclenchera enfin l'enquête et l'arrestation des suspects. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Après une semaine de cavale, le chauffard de Lorient reste introuvable. Au volant de sa voiture, le jeune homme de 20 ans est soupçonné d'avoir percuté 2 garçons. L'un est mort, l'autre a été grièvement blessé. Les appels à témoins n'ont rien donné pour l'instant. Xavier Niel va devenir actionnaire de Nice Matin. L'homme d'affaires est entré en négociation exclusive pour reprendre une part majoritaire du journal que possède la société belge Netis.
Europe 1, il est 7h35.
Le mondial de foot féminin Nigeria-France, c'est ce soir à partir de 21h à Rennes.
Une rencontre à suivre évidemment en intégralité sur Europe 1, radio officielle de la compétition. Les Bleus, déjà qualifiés pour les 8e, doivent confirmer leurs résultats et gagner, Julien Froment.
Calculer, ce n'est pas dans l'ADN de l'équipe de France. La sélectionneur Corinne Diacre va certes effectuer quelques changements contre le Nigeria, histoire de faire souffler une cadre ou deux, mais pas question de dénaturer son équipe.
Ce ne sera pas un turnover pour tourner, ce sera vraiment mettre une équipe compétitive. Donc il n'y aura pas beaucoup de changements, il ne faut pas vous attendre à avoir un turnover de la moitié de l'équipe, ça c'est sûr.
Car la finalité, c'est bien sûr d'arriver au top de sa forme pour le 8e de finale et le quart de finale tant attendu face aux États-Unis. Un match fantasmé, craint par les observateurs, mais les Bleus font comme si de rien n'était. La milieu de terrain, Élise Bussaglia.
Bah vous le voyez venir, moi je ne le vois pas encore venir, je vous dis, je suis concentrée sur le Nigeria. Bah, si vous avez peur, ben, essayez de vous détendre parce que moi ça va très bien.
Détendue et déterminée, l'équipe de France veut d'abord finir le travail ce soir contre le Nigeria, puis viendra le temps de penser au match coup près. Rennes, Julien Froment, Europe 1.
Et rendez-vous à 8h35 pour le journal du Mondial avec Jérôme Lacroix et une soirée spéciale dès 20h sur notre antenne avec Lionel Rousseau.
Une dernière info foot, selon le journal L'Équipe, le PSG serait prêt à vendre Neymar, l'attaquant brésilien de 27 ans qui serait lui aussi prêt à quitter le club de la capitale.
Merci beaucoup Céline Kalman et à demain.
Vos réactions sur Twitter, c'est très simple, hein, vous nous écrivez avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Vous l'achetez combien Jean-Michel Apathy, Neymar?
Pas cher. De toute façon là il a beaucoup baissé donc c'est pas pour autant qu'il faut l'acheter.
On parle de quoi ce matin, de foot?
Alors,
d'argent
non,
ou politique?
D'écologie, parce que François de Rugy, le ministre de la transition écologique et solidaire, sera tout à l'heure à l'invité d'Audrey Casponara. Ouais. Donc on se pose la question, le gouvernement est-il écolo? La vérité c'est qu'il est beaucoup moins qu'il ne le dit.
Très bien, Axel de Tarlet, on va parler
écolo aussi
avec dites donc ce matin.
Mais... ouais, c'est vert ce matin.
Bah, vous allez voir, moi c'est très concret parce que c'est Mastercard qui lance en Suède une carte de crédit qui mesure vos émissions de CO2 pour chaque achat. Voilà. Et cette carte de crédit se bloque si vous avez dépassé votre quota de CO2.
Vous nous direz comment ça marche, c'est intéressant. Apathy Tarlet, dans un instant sur Europe 1. Tiens, il y a Neymar qui appelle.
C'est pour vous Jean-Michel. Il est 7h37. Il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et on l'a dit, le ministre de l'écologie, François de Rugy, sera l'invité d'Europe 1 à 8h15 face à Audrey Crespo-Mara. Et pour vous, Jean-Michel, en matière d'écologie, du côté du gouvernement, en tout cas, c'est le service minimum en ce moment.
Ça, on peut le dire, service minimum. Alors, il y a la communication à côté de la réalité. La communication, on l'a vu et entendu mercredi après-midi à la tribune de l'Assemblée nationale. On a vu Édouard Philippe, Premier ministre, commencer son discours de politique générale par l'urgence écologique. C'est lui qui l'appelle comme ça. C'était du jamais vu. Et puis on a entendu aussi Édouard Philippe dire que dans les 12 prochains mois, en France, pas en France, hein, ce serait une accélération écologique. Alors on se dit, tiens, quand même, c'est fort tout ça. Et puis après, on a écouté les annonces du Premier ministre. Alors là, il faut bien dire que la baudruche s'est dégonflée. Ouais. Par exemple, Édouard Philippe dit, oh, on va recycler du plastique. Oui, mais ça fait des années, un, qu'on le dit. Et lui-même, en 2017, il le disait déjà. Donc oui, d'accord, bah, écoute, il faut le faire. Hein. Il n'y a pas à pas le répéter sans arrêt. Et puis, le Premier ministre a aussi insisté sur la rénovation énergétique des bâtiments. C'est important. Il y a des bâtiments qui sont de vraies passoires énergétiques. On perd un argent fou, on gaspille de l'énergie. Mais ça, on le sait depuis extrêmement longtemps. En 2008, ça figurait déjà dans le projet, le pacte écologique de Nicolas Sarkozy avec Nicolas Hulot. Et ce qui manque, on le sait, ce sont des moyens coercitifs, notamment auprès des propriétaires, pour qu'une rénovation énergétique des bâtiments soit réelle. Donc ce qu'il manque, c'est une volonté politique. Et puis l'argent aussi, vous avez raison, Nikos, puisque vous me faisiez le signe de la main, qui ne se voyait pas à la radio. Donc tout ça, ça manque. Et Édouard Philippe le sait aussi bien que nous. Donc en fait, dans son discours, il n'y avait pas grand-chose. Et les spécialistes, ceux qui s'alarment depuis des années de ce qui va nous tomber sur la tête en 2050, notent qu'il n'a pas parlé de la biodiversité, de la disparition du vivant, des pesticides. Et en fait, tous ces manques-là décrivent un Premier ministre qui n'est pas du tout devenu écologiste, contrairement à ce qu'il dit, et qu'il reste imprégné d'une vieille culture politique qui ne prend pas en compte le réchauffement climatique et toutes ses conséquences. On ne va pas accabler Édouard Philippe, parce qu'il n'est pas aidé par Emmanuel Macron. Ça, qu'est-ce que vous voulez? Emmanuel Macron est président de la République depuis 2017, il a fait des grands discours, peut-être des beaux discours, sur beaucoup de choses, les religions, la jeunesse, l'Europe, et sur l'écologie, rien. Comme si ça n'existait pas. Enfin, ouais. C'est quand même quelque chose qui est prioritaire quand on voit les dégâts qui s'annoncent dans les décennies qui viennent. Et le 29 avril, lorsqu'il clôt le grand débat, Emmanuel Macron, par une conférence de presse, pas un mot sur l'écologie. Donc voilà, la couche verte du gouvernement est très superficielle, très légère. Et François de Rugy, donc le ministre de la Transition écologique et solidaire et qui sera tout à l'heure l'invité d'Europe 1, est un écologiste depuis longtemps, un écologiste convaincu, qui ne doit pas se sentir très très bien dans ce gouvernement qui n'en fait pas beaucoup en matière d'écologie. Mais je vous donne mon billet, Nikos, que ça, il ne le dira pas ce matin.
Bah écoutez, on ne sait jamais, posez-lui la question, plus le cas dans les couloirs. On l'attend, il sera là dans quelques instants.
Allez,
Jean-Michel Apathy sur Europe 1, tous les matins. Axel de Tarlet, puisqu'on est dans ce thème de l'écologie, et un pays qui en pointe en la matière, c'est la Suède. Et il lance une carte de crédit un peu particulière. Racontez-nous.
Voilà, c'est très intéressant parce que justement, pour rebondir sur la chronique de Jean-Michel Apathy, ouais. Et si c'était à nous de nous emparer de ce sujet de l'écologie.
Et pas aux politiques.
Et pas aux politiques. Exact. Et on en a un exemple très concret en Suède. Donc il lance effectivement une carte de crédit qui, pour chacun des achats, indique les émissions de CO2. Par exemple, vous achetez un pantalon fabriqué en Chine, boum, on vous indique que ce pantalon fabriqué en Chine, c'est 20 kg de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est Mastercard qui lance cette carte de crédit en Suède, en partenariat avec une start-up qui justement est capable de mesurer les émissions de CO2 pour chacun des achats. Alors il y a deux versions de cette carte de crédit. Mmh. La première, effectivement, vous indique simplement les rejets de CO2, ce qui est quand même une révolution parce qu'aujourd'hui on a une idée du prix des choses, on n'a aucune idée de leur empreinte carbone.
On n'a pas la grille de lecture.
Et bien là, on l'aura. Vous voyez, un pantalon fabriqué en Chine, c'est 20 kg. S'il est fabriqué en Suède, c'est 10 kg.
C'est dingue.
Et puis la deuxième carte de crédit, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus autoritaire. Cette carte se bloque quand vous avez dépassé un certain quota de CO2. Vous recevez un message du type « achat refusé ». Quota de CO2 dépassé. Il faut savoir qu'un Français rejette en moyenne 12 tonnes de CO2 par an. C'est beaucoup trop pour être neutre du point de vue du carbone. C'est 12 tonnes, voilà. Et pour être neutre, l'ADEME nous dit qu'il ne faudrait pas dépasser les 2 tonnes de CO2 par an. Donc vous voyez, 6 fois moins. Donc dans la vie de tous les jours, ça voudra dire qu'il faudra surveiller son bilan carbone et procéder à des arbitrages. Par exemple, si je fais Paris-Lyon en voiture, vous vouliez des chiffres, c'est 100 kg de CO2 dans l'atmosphère. Mmh. Si je fais Paris-Lyon en train, en TGV, c'est 1 kg de CO2 dans l'atmosphère. À table, si je prends un filet de dinde, c'est 3 fois moins de CO2 que si je prends un filet de bœuf.
Non mais c'est gadget pour l'instant ou ça pourrait un jour changer radicalement notre vie ?
Eh ben méfions-nous parce que tout ce qui vient de Suède, ou réjouissons-nous, tout ce qui vient de Suède en matière écolo s'impose très vite. Regardez tout ce mouvement là contre l'avion, c'est venu de Suède au printemps. Et
vrai.
Déjà, vous avez vu, on parle d'interdire les vols intérieurs, on parle de taxer le kérosène. Donc qui sait cette carte CO2 ? Et ce serait un changement radical pour faire suite à la chronique politique de Jean-Michel Apathy parce qu'aujourd'hui le réchauffement climatique, on le voit, c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des grandes entreprises, c'est l'affaire de la COP21, tout ça c'est très lointain. Bah, d'un coup, ça devient mon affaire de façon très concrète, très individuelle. Qu'est-ce que j'achète ? Qu'est-ce que je n'achète pas ? Chiche ?
Allez, responsabilisation, ça commence dans ton propre jardin.
Manger de la dinde plutôt que du bœuf.
Voilà. Prendre un taxi voiture électrique plutôt qu'une
plutôt
pot d'échappement.
4x4.
Merci beaucoup, c'était Axel de Tarlet, comme tous les jours dans la matinale d'Europe 1 pour le Zoom Éco.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Les grands débuts ce matin du service national universel. Pendant un mois, 2000 jeunes de 15 à 16 ans vont expérimenter le dispositif. Dans un instant, j'en reçois Manon. Elle a 16 ans. Elle fait partie des premiers engagés volontaires. Elle nous dira pourquoi juste après ça. Tout de suite.
Il est 7h47, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Top départ du bac avec la philo ce matin. L'examen pourrait être perturbé par un appel à la grève déposé par les syndicats d'enseignants. Et ce pour protester contre la réforme du bac qui entrera en vigueur l'année prochaine. Le meurtre d'Alexia Daval en octobre 2017 à Grès, en Haute-Saône. Une reconstitution a débuté tôt ce matin. Jonathan Daval, le mari de la victime qui a avoué le meurtre, y participe, tout comme les proches d'Alexia. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré d'ici peu, après les violents orages qui ont ravagé de nombreuses cultures. Ça s'est passé dans la Drôme. La FNSEA réclame des avances de trésorerie. Les Bleus face au Nigeria à Rennes ce soir. À 21h, l'équipe de France féminine vise la première place de son groupe. Match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Radio officielle du Mondial.
Europe 1. C'est le début aujourd'hui du service national universel. Le gouvernement espère le généraliser à tous les jeunes de 16 à 18 ans avant 2026. En attendant, il démarre ce matin avec une phase de test dans 13 départements pilotes. Nikos, vous recevez Manon Pourchet. Elle a 16 ans, elle est en classe de seconde. Elle fait partie des 2000 jeunes qui vont participer cette année à ce service national universel.
Bonjour Manon.
Bonjour.
Vous avez choisi de faire partie des 2000 jeunes qui vont tester le dispositif du service national universel, qui n'est pas encore obligatoire. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager ?
Je trouve que ça peut être constructif pour notre avenir. On va rencontrer de nouvelles personnes. On va pouvoir peut-être s'orienter pour plus tard sur un nouveau métier. On va rencontrer des pompiers pour les premiers secours, on a rencontré des militaires, plein de métiers là.
Quels sont les arguments qui vous ont poussé justement à vous inscrire ?
Ils nous ont dit qu'on allait faire du sport. J'adore le sport, donc ça c'était pas un problème pour moi. Puis il y avait une autre phase de 15 jours, ça me plaisait aussi d'aller dans une association.
Oui, parce qu'en fait ça va durer 2 fois 15 jours.
15 jours en hébergement collectif dans un autre département que le vôtre. Vous, vous êtes de Vesoul et vous allez aller à Tourcoing.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 15 jours? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
On va faire du module de self-défense. On va faire des jeux collectifs tous ensemble. On va avoir comme si on allait vivre une catastrophe naturelle ou un attentat. Comment réagir au premier secours? Et on va visiter Tourcoing, donc ses monuments, tout ça.
Vous allez vous lever à quelle heure, vous le savez, Manon?
Normalement, c'est 6h30 tous les matins.
Et alors, ça vous fait peur? Vous vous dites, non, c'est bien, on va découvrir les joies du petit matin, comme nous à la radio.
C'est tôt, mais il le faut pour avoir une bonne journée.
Pour avoir une journée complète avec la levée des couleurs et la Marseillaise.
Oui, c'est ça.
Vous aimez la levée des couleurs?
Oui, j'aime bien ça, parce que ça peut être un hommage à tous ceux qui sont un peu morts pour la France, un hommage pour eux.
Et ça signifie quoi pour vous de participer à quelque chose de collectif, à quelque chose où toutes les classes sociales finalement se retrouvent, il n'y a pas de différence? D'ailleurs, vous portez une tenue commune, je crois, non? Vous l'avez vue, la tenue?
Oui, on a une tenue chacun.
Et comment?
Le pantalon, il est bleu marine. On a un polo qui est blanc, avec le logo du SNU, donc avec les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. On a une veste bleu marine et une casquette.
Bon, c'est pas mal. Ils disent quoi, vos parents, quand vous leur avez dit que vous vouliez vous inscrire au SNU?
Ils étaient très contents pour moi.
Votre papa, il a fait le service militaire, il en parle?
Oui, il a fait le service militaire, oui.
Et il dit quoi? Ça va te faire du bien, tu vas apprendre la vraie vie. Il dit quoi, papa?
Oui, il me dit que c'est bien pour moi, que je bouge un peu quand même, pas rester chez moi à rien faire.
Manon, vous allez donc passer 15 jours en hébergement collectif à Tourcoing, et après, il y aura autre chose, ce sera votre mission d'intérêt général, 15 jours aussi, mais là, vous ne savez pas encore ce que vous allez faire. Ça sera dans quel domaine?
On peut être dans une association ou dans un groupe collectif territorial, ou dans un groupe de sportifs.
Vous êtes vraiment impliqué. Hein. Vous êtes aussi ambassadrice du service national universel. Qu'est-ce que ça veut dire être ambassadeur? C'est qu'on en parlait, informé, c'est quoi?
Déjà, on a fait la promotion de la tenue. Donc, montrer aux autres jeunes ce qu'ils allaient porter durant ce séjour de cohésion. Et aussi, par exemple, s'il y en a un qui est tout seul, aller vers lui, lui demander ce qui se passe, s'il ne se sent pas très bien, et en informer les
responsables, quoi.
Oui, voilà.
Et quand certains jeunes avec qui vous en parlez ne sont pas du tout intéressés par le service national universel, qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils aient envie ou la curiosité de venir partager ce moment avec vous ou d'autres?
Ça peut être constructif pour eux, dans le sens où ils vont pouvoir rencontrer de nouveaux jeunes, ils vont pouvoir faire connaissance avec eux, rester en contact. Pas forcément que des jeunes qui connaissent de chez eux, quoi.
Alors Manon, d'ici 2026, le gouvernement souhaite généraliser ce service national universel pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. Et les volontaires pourront par la suite s'engager pour une deuxième phase qui va durer au moins 3 mois. Est-ce que ça vous plairait, vous Manon, de poursuivre? Ou ça va dépendre de ce que vous allez vivre justement dans cette première expérience?
Ça va dépendre de ce qu'on va faire pendant les 15 jours et de ma mission d'intérêt général. Mais j'aimerais bien, mais je ne sais pas encore, faut voir.
Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Vous avez 16 ans, Manon. Comment vous vous projetez dans l'avenir?
J'aimerais bien être infirmière déjà.
Donc déjà,
avoir mon bac.
S'occuper des autres et passer aussi le bac.
Oui.
En attendant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ces 15 jours qui démarrent pour vous à Tourcoing? On dit quoi? Bon courage, bonne chance, amusez-vous.
Oui.
Alors tout ça, Manon, amusez-vous, vivez cette expérience comme quelque chose qui deviendra un grand souvenir et qui peut-être changera votre vie. Merci beaucoup, Manon.
Merci.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, Nikos.
Le grand jour pour tous les candidats au bac. Dans quelques minutes, c'est l'épreuve de philo. Nous serons en direct devant un lycée des Hauts-de-Seine dès le début du journal de 8h. Et dans une minute, les lacs du Connemara. Ça vous parle, cette chanson de Michel Sardou?
Tu connais par cœur.
Eh bien, elle est diffusée en boucle pendant 5 jours sur une radio belge. Vraiment, c'est la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. À tout de suite.
Réagissez à l'actualité. Hein. Vous, vos enfants passent le bac aujourd'hui ou alors ils partent pour le service national universel. On vient d'en parler. Vous êtes serein ou stressé? Dites-le nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Attention, musique dans l'air, vous êtes en boucle ce matin, Jean-Philippe Ballas. Hein.
Oui, c'est une chanson que je fredonne sans cesse, et comme je suis altruiste, je me dis, allez tiens,
Fais-en profiter tout le monde.
Terre brûlée au vent.
Je sens que vous êtes partagé entre les fans du grand Michel, du grand Sardou, et ceux qui se disent « Ok, merci, bien joué, je l'ai dans la tête pour toute la journée ». Les lacs du Connemara, si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'une radio belge a décidé de diffuser non-stop cette chanson 24 heures sur 24 pendant 5 jours et 4 nuits à partir de lundi prochain.
Ah, au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nue dans un lac du Connemara.
Et je sens que vous allez me demander pourquoi. Eh bien, parce que cette chanson de 1980 est devenue au fil du temps un hymne de fin de soirée, de ce que l'on chante, que dis-je, que l'on crie en se tenant par les épaules, en tapant du pied, chemise ouverte, cheveux collés. Vous le faites bien, vous le faites bien. D'ailleurs, la radio belge, hein, c'est à noter, lance un appel pour que des auditeurs se relaient et viennent faire tourner des foulards en studio, tout ça en direct. Alors, comment vous dire ? On va expliquer que c'est un hommage belge à une chanson populaire dont j'ai découvert d'ailleurs qu'elle avait été écrite un peu par hasard par Sardou, Pierre Delanoë et Jacques Revaux. Oui, c'est la rencontre improbable entre un synthétiseur qui avait pris un coup de chaud, paraît-il, et sortait un son curieux de cornemuse et un dépliant touristique sur l'Irlande et ses lacs pittoresques. Voilà, ça tient à ça, un tube populaire.
Rien.
Et vous savez quoi finalement l'important ? C'est que là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence.
Là-bas c'est tout le prix de la silence.
Ne me remerciez pas.
Voilà, on l'a dans la tête grâce à vous. Merci Jean-Philippe Ballas, bonne journée.
À suivre le journal de David Doucan et tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Vous avez les températures du Connemara ?
Non, mais je peux vous dire que le Connemara, c'est un peu comme Roscoff, c'est-à-dire qu'il bénéficie du Gulf Stream. Alors, ce Roscoff, c'est le Gulf Stream qui fait que nous avons là-bas un jardin exotique et tropical. Et au Connemara, eh bien, c'est exactement le même type de temps. On n'a pas de jardins tropicaux, mais le climat est très tempéré grâce au Gulf Stream qui passe aussi au tout près d'Irlande. Voilà. Alors, fermons la parenthèse irlandaise.
L'été prend rendez-vous ?
L'été a rendez-vous avec nous aujourd'hui. Joyeux été, avec des températures très agréables, enfin, avec pratiquement aucun signe extérieur de soleil sur la France, un peu de brume, enfin les orages, ils seront anecdotiques ce soir sur les massifs alpins. Attention tout de même si vous êtes en montagne, des températures 20 degrés à Brest aujourd'hui, 21 à Caen, 24 à Nice. Alors Nice, pourquoi 24 ? Parce que nous avons des vents marins. Alors donc le vent marin rafraîchit un petit peu, donc heureusement à Nice il fera 24, il en fera 25 à Pontivy, 26 à Lille et Clermont-Ferrand, à Paris, Dijon, Nancy, Colmar et Pinal, 27 à Londres, hein, 28 à Marseille, 29 du côté de Limoges, 30 à Arcachon, à Lyon, à Cognac, à Angoulême, 32 à Toulouse, à Castres, 33 à Avignon et du côté d'Orange. Toutes ces températures sont les températures sous abri, je le répète. En ce qui concerne la journée de demain, ce sera plus chaud, avec quand même une tendance orageuse qui commencera à se manifester sur la Bretagne dans l'après-midi de demain et la soirée de demain. Et alors que mercredi et jeudi seront des journées où là, les orages vont vraiment traverser la France. C'est-à-dire s'il faut profiter au maximum de cette journée de lundi.
On va essayer, grâce à vous et grâce à vos prévisions, Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Merci de nous être fidèles en ce lundi 17 juin. Et très bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan, bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité.
Du courage, de la sérénité et un peu de chance aussi. Voilà ce que nous souhaitons aux 740 000 candidats. Le bac a commencé, l'épreuve de philosophie vient de débuter. Il y a cette menace de grève aussi, mais on ne constate pas de perturbation pour l'instant. Page complète dès le début de ce journal. Jonathan Daval est en ce moment à Gré-la-Ville en Haute-Saône. Il se plie à la reconstitution du meurtre de son épouse Alexia. Il a d'ores et déjà avoué, mais plusieurs zones d'ombre restent à éclaircir. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial sur place dans un instant. Et enfin, le 53e salon du Bourget, inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron. Seriez-vous prêt à monter dans un avion sans pilote Zoom sur l'aéronef autonome dans cette édition.
8h12, le point de vue international de Vincent Herouette. Jusqu'où iront les révoltés de Hong Kong ? 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit François de Rugy, le ministre de l'écologie.
Europe 1.
Allez, on respire, un grand coup, on se concentre. Et tout ira bien. 554 000 candidats dans la filière générale. Pour eux, l'épreuve de philosophie a commencé depuis quelques minutes. 190 000 autres passent leur bac professionnel et ils auront français à partir de 9h30. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Vous êtes en direct pour Europe 1 à Rueil-Malmaison, devant le lycée Richelieu, et vous avez accompagné toute la matinée un candidat. Il s'appelle Ilan, et alors lui, il vise carrément la mention très bien, rien de moins.
Oui, alors je parle pas très fort parce que les épreuves, ça y est, ont commencé. Après cette ambiance d'excitation et de stress, les candidats ont enchaîné les bisous du matin. J'ai entendu des filles répéter des citations de philo dans les toilettes. Ilan, lui, 17 ans, élève brillant, fils de deux instits, est parti de chez lui il y a maintenant une heure, sous l'œil vigilant de sa mère et son père, Sylvain.
T'as convoqué, t'as tout, t'as vérifié ?
Ouais, j'ai tout.
Ok, t'as pris de quoi boire, manger ?
Ouais.
Bon, allez.
Allez, c'est parti.
Et voilà, c'est parti pour 4 heures de dissertation. Quand beaucoup d'élèves se rongent les ongles ou s'encouragent, Ilan, assis dans le couloir, révise jusqu'au bout devant la salle d'examen.
Bah, je vais juste relire un cours avant de commencer, histoire d'avoir l'esprit léger, quoi. Pour pas stresser, commencer, pas stresser, en sachant que je vais tout travailler, quoi.
Un cours sur quoi, alors ? Qu'est-ce qui vous manque ?
C'est sur la vérité, la notion de vérité chez Kant. Ça, je l'ai pas trop bossé, alors que ça tombe tous les ans, et donc du coup, là, il faut que je bosse un peu ça, quand même.
Bon. Mais on n'est pas très très inquiet pour Ilan.
Oui, on croise les doigts pour lui. Un mot de cet appel à la grève, Virginie, de certains syndicats. Apparemment, pas de soucis pour l'instant.
Alors écoutez, le risque qu'une épreuve soit perturbée dans un ou plusieurs lycées est assez minime. Un tiers de surveillants de plus que d'habitude ont été convoqués. En revanche, plusieurs dizaines de piquets de grève étaient prévus à l'entrée des lycées ce matin. On saura s'il y a eu des perturbations dans les heures qui viennent.
Virginie Salmen, en direct du lycée Richelieu à Rueil-Malmaison. Merci à vous, Virginie. Le candidat le plus jeune cette année, Nikos, vous le savez, quel âge il a ? 11 ans. 11 ans seulement, il passe un bac S dans l'académie de Versailles. Le plus âgé, il a 77 ans et lui, il est dans la région de Dijon.
On l'avait reçu d'ailleurs sur Europe 1. Un autre fait divers dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, la reconstitution du crime se déroule en ce moment.
Oui, Jonathan Daval est arrivé un peu avant 5h à Grès-la-Ville, en Haute-Saône, la zone pavillonnaire où il a, selon ses aveux, étranglé son épouse Alexia en octobre 2017. Alors à quoi peut servir cette reconstitution, étant donné qu'il a déjà avoué ? Rejoignons sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Arthur M. Bachet. Vous allez répondre à cette question, Arthur, mais d'abord, c'est peu commun. La mère d'Alexia Daval est présente en ce moment dans le pavillon et assiste à la reconstitution.
Et ici, bonjour David, en ce moment, derrière les volets clos de cette petite maison rose, une femme assiste à la scène de la mort de sa fille, rejouée par son gendre, Jonathan Daval. Isabelle Fouliot nous disait ceci ce matin, juste avant le début de la reconstitution.
C'est pas de gaieté de cœur que j'y vais. Donc voilà, j'y vais parce que il faut faire bouger les choses et que peut-être qu'en nous voyant, il pourra parler davantage. Est-ce qu'il y a complicité ? Est-ce qu'il y a préméditation ? Qui a brûlé le corps ? Et pourquoi de telles horreurs ?
Autour de l'accusé, il y a donc sa belle-famille, la juge d'instruction, le médecin légiste et les avocats, notamment Randall Schwerdorfer qui défend Jonathan Daval.
Les scènes sont jouées, elles sont photographiées, séquence par séquence. Il est habituel d'avoir ce qu'on appelle un plastron, c'est-à-dire une gendarme qui joue le rôle d'Alexia et Jonathan lui-même dans le rôle de Jonathan. Et à cette occasion-là, le juge d'instruction peut poser toute question qui lui semble utile.
Ensuite, le cortège doit prendre la direction du bois des Moulins, à 4 km d'ici, l'endroit où le corps carbonisé de la jeune femme a été découvert. Jonathan Daval assure depuis le début que ce n'est pas lui qui a mis le feu au cadavre de son épouse.
L'envoyé spécial d'Europe 1 à Grès-la-Ville en Haute-Saône, Arthur M. Bachet. Merci à vous, Arthur.
On continue dans le journal de 8h de David Doucan.
Avec salon... la politique maintenant. La République en marche, Nikos, se déchire pour Paris. Le parti présidentiel présente aujourd'hui les premières investitures dans une quinzaine de villes, mais peu de chance que cela occupe le devant de la scène médiatique étant donné le désordre qui règne à Paris. Ils sont 5 à vouloir devenir maire de la capitale. Benjamin Griveaux n'a pas réussi à faire taire les ambitions de ses rivaux. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour à tous.
Ce n'est plus une compétition, Mickaël, c'est une guerre ouverte.
Et oui, avec également Anne Le Breton, Mounir Majoubi, Cédric Villani, Hugues Rançon, bien Griveaux qui est considéré, vous l'avez dit, comme le favori. Mais les quatre autres accusent le parti de verrouillage en pointant le processus de désignation. Un oral de 45 minutes le 9 juillet, une décision annoncée le lendemain. Méthode à l'ancienne, accuse-t-il.
Et maintenant, alors qu'est-ce qui va se passer ?
Eh bien en tout cas, la réponse n'a pas tardé. C'est désobligeant, est une primaire, est absolument exclu, répond très directement Alain Richard dans Le Parisien. C'est un des dirigeants de la commission d'investiture du parti. De son côté, le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, lui a lancé un appel au calme. Hier, il nous confirmait que le calendrier sera maintenu. Encore une fois, Paris joue le rôle de miroir et parfois de miroir déformant pour le pouvoir en place. Et selon nos informations, eh bien, c'est à l'Élysée que la question quand même sera tranchée, car Emmanuel Macron ne peut laisser se dégrader une élection cruciale pour la suite du quinquennat.
Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Merci Mickaël.
Europe 1.
À suivre dans le journal, le Salon du Bourget qui ouvre ses portes en vedette, les avions sans pilote. Il y a toujours un pilote dans le 8h. A tout de suite, c'est David Doucan.
Il est 8h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Ouverture tout à l'heure du salon aéronautique du Bourget.
Oui, d'abord réservé aux professionnels. Pour le grand public, c'est à partir de vendredi et je vous parle de l'avion autonome. Est-ce que vous monteriez dans un aéronef sans pilote? Nous vous révélons une étude réalisée par Ansys, le leader mondial des technologies de simulation. Pour 7 personnes sur 10, eh bien c'est d'accord. Olivier Aurélien Fleureau.
Voyager à bord d'un avion totalement autonome, oui, mais pas tout de suite. Il faudra d'abord rassurer, et pour ça il y aura encore un pilote dans le cockpit pour reprendre le contrôle en cas de besoin. Mais cette large majorité qui se dit prête à embarquer est vue comme un encouragement pour améliorer les technologies, notamment pour Ansys, la société à l'origine de l'étude et qui est le leader mondial des logiciels de simulation. Son porte-parole Gunther Siegel rappelle que l'autonomie est déjà à bord.
80-90% d'un vol aujourd'hui est fait de manière autonome. Où aujourd'hui, les parties manuelles, c'est principalement décollage-atterrissage. Une fois que l'avion monte en altitude de croisière, la plus grande partie du voyage est entièrement autonome, le pilote étant juste là, s'il fallait reprendre contrôle ou vérifier certaines valeurs. Néanmoins, même la partie atterrissage pourrait être automatisée.
Par exemple, lors d'un atterrissage au cours duquel le pilote a très peu de visibilité, il peut déclencher le mode autonome. Mais pour un vol en autonomie complète, cela passera d'abord par les taxis volants qui, à l'horizon 2030, pourront transporter 2 ou 4 personnes d'un aéroport aux portes d'une ville.
Le spécialiste transport d'Europe 1, Aurélien Fleureau.
Vous allez nous parler maintenant d'art, hein, avec Judith Décapitant Leferne.
Oui, la toile avait été découverte il y a 5 ans dans un grenier à Toulouse. Et depuis, elle est entourée de mystère. Est-elle signée du maître du XVIIe siècle Caravage? De nombreux experts disent oui, d'autres sont plus dubitatifs, mais cela n'empêchera pas ce tableau exposé à partir d'aujourd'hui à Toulouse d'être vendu aux enchères à la fin du mois. Le prix peut s'envoler jusqu'à 150 millions d'euros. Diane Chenouda.
La lumière, les couleurs, la violence de la scène. Judith, l'héroïne de la Bible qui venge son peuple, tout est du Caravage pour l'expert Éric Turquin.
Pour moi, il ne peut pas y avoir de doute. Et nous pouvons prouver que ce tableau n'est pas une copie. Donc bien sûr que c'est un Caravage. À cause de l'extraordinaire beauté du visage de Judith. Cette beauté, elle ne peut pas être l'œuvre d'un copiste ou d'un artiste de troisième rang. Elle est bouleversante, cette Judith. Bouleversante.
Les nombreux visiteurs se bousculent devant la toile, émerveillés.
Je suis KO devant ce tableau. Quoi. Voilà, c'est extraordinaire. Tous les détails, la scène, c'est typique de Caravage.
C'est vraiment une magnifique composition d'une force, d'une vraie violence, d'une brutalité et d'un traitement plastique exceptionnel.
J'aime les couleurs de feu qui sortent de ce tableau.
Je ne suis pas un expert, mais j'ai vu plusieurs Caravages. Et non seulement c'est un Caravage, mais c'est un excellent Caravage.
Une certitude, il n'ira pas au Louvre, ni dans aucun grand musée français. L'État français, en effet, ne l'achètera pas, car il y a un doute, selon lui, sur l'authenticité de la toile.
Reportage signé Diane Chenouda avec Arnaud Joly pour Europe 1. Concluons avec la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les Françaises jouent ce soir leur dernier match de poule. Ce sera face au Nigeria, à Rennes. Soirée spéciale dès 20h avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Match en direct et en intégralité. Les Bleus sont d'ores et déjà certaines d'être qualifiées. Mais l'enjeu, c'est de finir première du groupe. Et pour cela, il suffira d'un match nul.
Merci beaucoup, David Doucan, pour le journal de 8h. À demain.
La matinale d'Europe 1.
Nikos Aliagas.
Il est 8h11, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
C'est bien de commencer la semaine ensemble, Vincent Hervouet, bonjour.
Oh mais... bonjour Nikos, bonjour à tous.
L'actualité internationale, ces images, on les a vues tourner partout sur les chaînes info. La révolte de Hong Kong, des centaines de milliers de manifestants dans les rues, peut-être même 2 millions, alors que la chef de l'exécutif a suspendu son projet de loi sur les extraditions. Elle s'est même excusée, mais c'est trop peu apparemment, ou c'est trop tard?
Oui, après la soudaine marée blanche, on a vu 1 million de participants, c'était la semaine dernière. On a vu l'incroyable marée noire hier, 2 fois plus de monde, piétinant au pied des gratte-ciels, sous le cagnard, tous en noir. 2 millions sur 7 millions d'habitants. Alors, à l'échelle de la France, imaginez un peu, c'est comme si 17 millions de manifestants défilaient entre République et Nation. Ouais. Hong Kong est une ville frondeuse qui résiste à la normalisation que Pékin et les collabos locaux veulent lui imposer. Mais une mobilisation pareille, aucun Chinois n'a jamais vu ça. C'est la réplique de Tiananmen 30 ans après. Alors le chef de l'exécutif, Carrie Lam, vient donc d'entrer dans l'histoire comme la femme qui a mis toute une ville dans la rue. Même Anne Hidalgo, avec ses travaux de voirie dément, n'a pas réussi à en faire marcher autant. Samedi, Carrie Lam était face aux caméras, tout en blanc, comme les manifestants, mais avec une semaine de retard sur le dress code. Ouais. Le projet de loi sur les extraditions est suspendu. Elle a juré que l'idée en revenait à son gouvernement, pas à Pékin. Personne ne la croit. Tout le monde sait qu'il a fait reine. Mmh. Et puis surtout qu'elle était le matin même à Shenzhen, la ville frontière, pour une réunion plus ou moins secrète avec un membre du Politburo. Et comme à Hong Kong, on écoute toujours la BBC, chacun a entendu l'ambassadeur chinois à Londres prendre ses distances. Des députés pro-Pékin l'ont aussi critiqué. Et quand la police a chargé les manifestants, les jeunes, mercredi, eh bien les milieux d'affaires l'ont sacrifié. Un milliardaire a renoncé soudain à un projet pharaonique et puis d'autres ont commencé à retirer leur fortune.
Ah, tout simplement, les manifestants en fait veulent tout simplement qu'elle démissionne.
Dans la grande tradition chinoise hier, elle a fait son autocritique, elle s'excuse d'avoir causé querelles et conflits, d'avoir déçu et tourmenté ses concitoyens. On aime cette musique douce à laquelle les automobilistes parisiens n'ont jamais eu droit. Les habitants de Hong Kong veulent davantage que la démission d'une bureaucrate. Ils savent qu'ils se battent contre l'Empire, que le régime ne connaît que la force. Ils veulent l'abandon du projet, la tête de Carrie Lam et que Xi Jinping perde la face. Cette épreuve de force tombe assez mal pour le président chinois à la veille du G7 où il va affronter Donald Trump. Un signe qui ne trompe pas de son embarras. Mmh. La presse chinoise, qui faisait la leçon la semaine dernière aux jeunes manifestants écervelés et ingrats, ne dit plus un mot ce matin de Hong Kong.
Vincent Hervouette pour l'édito international.
Voilà.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Parce que vous savez, avec la voiture et Paris ce matin, alors qu'on me parlait de Hong Kong, mais bon, il fait un aller-retour. Et vous
J'ai
êtes
failli être en retard.
Allez, restez avec nous. Dans deux minutes, c'est vous, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Qui est votre invité?
Eh bien écoutez, c'est à partir de demain que la loi énergie-climat est examinée à l'Assemblée nationale. Mais jusque-là, la France n'arrive même pas à respecter les seuils d'émission de CO2 qu'elle s'est elle-même fixée. Alors, où est l'accélération écologique promise par le Premier ministre? François Drugy, ministre de la Transition écologique, sera mon invité.
A tout de suite. Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, l'essentiel de l'info, mais tout de suite, l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara. Vous recevez le ministre de l'écologie, François Drugy.
Bonjour François Drugy.
Bonjour.
La loi énergie-climat est examinée à partir de demain à l'Assemblée nationale. Alors si on regarde le passé, entre 2015 et 2018, la France a dépassé de 7% le seuil d'émission de CO2 qu'elle s'était elle-même fixé. Si on regarde le futur, en 2023, on devrait encore dépasser de 6% le seuil d'émission carbone fixé à la COP21. Alors où est l'accélération écologique promise par le gouvernement ?
C'est justement pour cela qu'il faut accélérer. Et c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, nous avons eu des premiers résultats en 2018 qui devraient être consolidés d'ici la fin du mois de juin, qui montrent une baisse pour la première fois justement des émissions de gaz à effet de serre en 2018 en France de plus de 4%. Donc les efforts des Français sont récompensés, parce qu'il faut toujours voir que les Français transforment déjà leurs habitudes de déplacement, font des travaux d'isolation, changent de voiture. C'est ça qui permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Et il faut absolument, en effet, poursuivre dans la même voie et même intensifier les efforts.
La loi énergie prévoit un nouveau mode de calcul des tarifs EDF. Cette année, le prix de l'électricité a déjà augmenté de 6%. Une nouvelle hausse était prévue en août. Sera-t-elle maintenue ?
C'est la commission de régulation de l'énergie qui le dira. Et si c'était le cas, ce serait vraiment un tout petit ajustement. Mais ce qui compte, c'est que dans la loi qui va être examinée à l'Assemblée nationale à partir de demain, nous allons modifier le mode de calcul des tarifs de l'électricité. Nous en avions parlé ici même il y a quelques semaines. C'est un sujet qui, évidemment, préoccupe beaucoup les Français. On a toujours pensé que les tarifs régulés, c'était un peu des tarifs qui n'augmentaient jamais. Or, en réalité, il y a un mode de calcul fixé par la loi en 2010, confirmé en 2015, et qui aboutissait à des hausses presque mécaniques en fonction des prix de marché. Moi, j'ai souhaité qu'on redonne aux Français une forme de stabilité des prix liée à la stabilité du coût de production de l'électricité par les centrales nucléaires.
La hausse en août, d'un mot, elle est maintenue ou elle n'est pas maintenue ?
C'est la commission de régulation de l'énergie
vous
qui le dira.
Vous ne pouvez pas vous y
opposer. À ce stade, elle n'a pas encore rendu son rapport.
Concernant le nouveau mode de calcul, vous nous dites qu'il est avantageux. Quelle sera la hausse alors prévue l'an prochain, autant mesurer cet avantage, est-ce que ça va faire baisser le prix de l'électricité ou simplement limiter la hausse ?
Ça dépendra des coûts de production sur le marché, parce qu'à la fin, il faut bien que l'électricité qui est vendue aux Français, elle soit produite, et si elle augmente dans la production, évidemment, ça se retrouve à un moment donné sur la facture. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, nous avons environ 70% de l'électricité produite par les centrales nucléaires historiques, c'est-à-dire avant celle notamment de Flamanville qui n'est toujours pas en fonctionnement. Et donc là, le coût est assez stable. Il a été fixé d'ailleurs par la loi. Et donc cela permet, si EDF et ses concurrents ont accès à cette électricité nucléaire à coût fixe, de limiter évidemment toutes les hausses sur la facture des consommateurs.
Donc ça ne fera pas baisser les prix, mais ça limitera les hausses, en tout cas.
Et c'est peu probable que ça fasse... moi, je préfère ne pas faire de fausses promesses. C'est possible, hein, si les coûts de production, d'une manière générale, baissent, c'est possible. Mais en 2020, c'est surtout que nous arriverons à stabiliser les prix, alors que sinon, si on ne changeait pas le mode de calcul, nous étions partis pour une nouvelle hausse.
François Drugy, vous vantez le faible coût de l'électricité qui sera produite par le parc éolien marin de Dunkerque.
Oui.
Est-ce que les autres parcs marins en projet produiront eux aussi une électricité bon marché ?
Alors, le parc éolien qui va être construit à Dunkerque, nous avions lancé l'appel d'offres en novembre dernier et nous sommes déjà en mesure de dire que c'est EDF qui l'exploitera avec un coût de production, là c'est un prix garanti pendant 20 ans, inférieur à 50 euros le mégawattheure, c'est-à-dire quasiment le prix de marché, c'est-à-dire quasiment sans subvention. Et si jamais le prix
donc
de marché est supérieur,
que l'électricité produite par le nucléaire.
Voilà, en effet, être moins cher qu'en tout cas que le nucléaire type EPR. Alors, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que si en plus le prix de marché est un peu supérieur, eh bien l'État gagnera de l'argent parce que EDF paiera la différence. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, mais nous sommes arrivés à ce résultat parce que d'abord il y avait beaucoup de concurrence et puis parce qu'on a commencé à profiter des leçons tirées du passé, de réduire aussi les procédures. Enfin, on a tout fait pour que ça se fasse le plus efficacement possible.
Le paradoxe, c'est que vous nous dites donc que l'énergie éolienne c'est l'avenir et pourtant Franceol, la seule entreprise française qui fabrique des mâts d'éoliennes est en redressement judiciaire. François Ruffin, député de la France Insoumise, qui était à votre place vendredi dernier, vous interpelle.
On a une entreprise là de mâts qui existe du côté de Dijon. On la laisse crever. Pourquoi ? Parce que c'est 10% plus cher que les Espagnols ou les Portugais. Et là, le dossier était envoyé il y a des mois et des mois à François de Rugy. Il était envoyé au gouvernement. Il y a zéro réponse.
Alors, quelle est votre réponse ? Et pour prolonger la réflexion de François Ruffin, si le marché de l'éolien est vraiment plein d'avenir, l'État ne devrait-il pas soutenir financièrement Franceol pour lui permettre de se relancer, tout simplement ?
Alors, je veux rappeler que nous avons de nombreuses entreprises françaises qui contribuent à fabriquer des éoliennes et ça fait environ 18 000 emplois sur le territoire français. Donc, c'est un secteur qui est en croissance et qui, y compris, exporte. Hein, vous savez, il y a des usines en France qui exportent des éoliennes ou des pièces d'éoliennes pour les autres pays voisins ou même jusqu'aux États-Unis.
Et sur cette,
après,
entreprise-là,
d'après ce que je sais, mais il faudrait regarder de plus près, c'est surtout des difficultés internes de gestion liées à l'actionnaire et liées à un client qui a fait défaillance. Donc là, on ne peut pas, évidemment, l'État ne peut pas être responsable des défaillances internes à une entreprise. Mais bien sûr, si on peut aider à ce qu'elle poursuive son activité, car encore une fois, c'est un secteur qui va être en expansion, évidemment, nous le ferons.
François Drugy, en 2013, Édouard Philippe a signé une tribune avec Nathalie Kosciusko-Morizet dans laquelle il affirmait s'opposer résolument à la PMA pour les couples homosexuels. Ça veut dire qu'il va encore devoir avaler une couleuvre ?
Non, ça veut dire que les points de vue évoluent. Depuis 2013, vous vous souvenez, il y avait eu le débat très vif autour du mariage, dit mariage pour tous, c'est-à-dire l'ouverture aux couples homosexuels, le droit de se marier pour les couples homosexuels. Aujourd'hui, 6 ans après, mais ça paraît d'une grande banalité. Et la France s'est apaisée sur le sujet. Et aujourd'hui, donc, la PMA, je crois que c'est un petit peu le même cheminement qui se fait, pas simplement pour tel ou tel responsable politique, mais aussi chez les Français, où cela apparaît comme, en effet, un droit qui peut être accordé à toutes les femmes, y compris les femmes qui vivent en couple de femmes. Et donc, c'est quelque chose qui, sans doute, a fait... Moi, j'ai toujours été pour. J'aurais été, d'ailleurs, pour qu'on le vote dès 2013. Mais à l'époque, François Hollande et son gouvernement n'avaient pas voulu. Je crois que c'est aussi un peu la particularité des Emmanuel Macron et de son gouvernement, que de réussir à dépasser des vieux clivages, y compris sur des questions de société comme celle-ci.
Mais au sein même de votre gouvernement, c'est très tiraillé. Gérald Darmanin avait dit qu'il était contre, comme
Bruno
Le Maire.
Oui, il a reconnu qu'il avait évolué.
Vous êtes pour, en tout cas.
Moi, j'étais pour déjà en 2013, mais je suis très heureux que d'autres responsables politiques aient évolué, j'ai envie de dire, au vu de la réalité de ce que vivent les Françaises et les Français. Aujourd'hui, on est dans le vécu. On
n'est
pas dans de la théorie. On
n'est
pas dans de l'idéologie.
À la gestation pour autrui ?
Non, ce sont deux choses séparées. On sait très bien que, de même qu'on pourrait très bien bien faire le mariage sans faire la PMA, on peut faire la PMA sans faire la GPA. À chaque fois, ça fait l'objet d'un débat dans la société et d'un débat au Parlement. Et in fine, ce sont bien sûr les parlementaires qui décideront.
François Drugy, connaissez-vous le point commun entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen ?
Ah non, je n'en vois pas spontanément.
Tout de suite, hein. Leur point commun, c'est qu'ils lancent tous les deux des appels aux élus, les Républicains, pour qu'ils les rejoignent. Est-ce que vous aussi, vous souhaitez que la majorité s'élargisse sur sa droite ?
Moi, je souhaite que la majorité cherche tout le temps à s'élargir. Pas simplement sur sa droite, sur sa gauche, du côté de l'écologie, du centre. Vous savez, nous avons, avec Emmanuel Macron, lancé en 2017 un mouvement de recomposition de la vie politique française et ce mouvement ne s'arrêtera pas. Renouvellement et recomposition, ce sont vraiment les deux piliers du mouvement En Marche. Nous l'avons montré encore aux dernières européennes.
Mais là, on sent bien un appel aux élus républicains depuis quelques semaines.
Oui, mais vous savez, on peut lancer un appel à tous les maires.
Vous le lancez
qui,
aussi ?
Oui, moi je le dis à des maires, quelle que soit leur sensibilité, y compris de gauche, qui, et je peux vous le dire, en parler à Nantes. Dans la ville dont je suis l'élu, la liste En Marche est arrivée en tête. Ensuite, ce sont les Verts. Le Parti Socialiste et les Républicains sont très, très loin derrière. Aujourd'hui, les Nantais, par exemple, ou les Rennais ou d'autres habitants d'autres villes n'ont plus envie de voter pour le Parti Socialiste ou les Républicains. Alors, est-ce que les maires qui sont issus, qui sont membres de ces partis, ils veulent encore rester arc-boutés sur ces anciens partis ou est-ce qu'ils veulent participer à cette recomposition ? Moi, je les invite à y participer, à rebattre les cartes, à faire des listes aux municipales qui soient très ouvertes et qui soient fondées sur des projets pour l'intérêt des villes, en lien souvent avec l'action d'ailleurs du gouvernement, plutôt que dans des oppositions qui sont surjouées, vous le savez très bien. Il y a beaucoup de maires dans leur commune, dès qu'il y a un problème, ils disent « c'est de la faute de l'État », alors qu'en réalité, on va résoudre les problèmes en le faisant ensemble.
Merci François Drugy.
Merci, bonne journée.
C'était l'interview politique de la matinale.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
La revue de presse dans quelques instants avec David Abiker. 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix. Et la météo de Laurent Cabrol, à tout de suite.
L'essentiel de l'actualité, tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Il y a de la joie, c'est l'été.
C'est l'été. L'été calendaire, ce sera vendredi, tiens.
Oui, c'est vrai, oui.
Vendredi, et donc là, c'est... Bof. Ce sera pas terrible vendredi, justement. Je vais en profiter pour vous parler de la semaine, chers amis. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est du beau temps. Tous les habitants de la moitié nord sont entre 20 et 27 degrés. Sur la moitié sud, entre 29 et 33 degrés. Donc, ce sont vraiment des températures estivales. Température la plus basse, Brest, mais enfin, c'est très agréable quand même. Et 33 degrés dans la vallée du Rhône. Et puis, demain, ce sera presque le même temps, mais il fera encore plus chaud. Et une tendance orageuse sur la Bretagne, l'après-midi et le soir. Et mercredi, le temps va changer avec les orages. Ils vont commencer à traverser une grande partie de la France, mercredi et jeudi. Et là, on ne va pas aimer. Vendredi, justement, l'été calendaire, des orages dans l'Est, le Massif central, le Sud-Ouest. Vendredi, samedi, seront des journées plutôt orageuses, surtout sur les régions de moitié sud. Et dimanche 23, le temps redevient en principe plus calme. Et le point d'interrogation, c'est de savoir si la semaine suivante, c'est-à-dire entre le 24 et puis le 30, 31, est-ce que ça va, le 30 plutôt, est-ce que ça va continuer ? Est-ce que le temps va continuer à s'arranger ?
Vous voilà. Nous le direz.
Eh ben, je vous le dirai parce qu'il faut que je me taise.
Merci Laurent Cabrol, à tout de suite pour la revue de presse avec David Abiker.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Il est 8h31, toute l'actualité avec vous Nikos Aliagas.
Moins de 48 heures après les violents orages qui ont touché la Drôme, notamment, le ministre de l'Agriculture annonce ce matin des exonérations de taxes pour les sinistrés. Certains producteurs ont perdu la totalité de leur récolte à cause de la grêle. Impressionnant, l'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré d'ici demain. Première épreuve du bac en ce moment, la philo. Un appel à la grève a été déposé par les syndicats d'enseignants pour protester contre la réforme du bac. Les épreuves vont se passer normalement, a affirmé ce matin Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Le meurtre d'Alexia Daval en octobre 2017 à Grès, en Haute-Saône. Une reconstitution se déroule en ce moment en présence de Jonathan Daval, mais aussi en présence des parents de la victime et de son beau-frère. Le 53e Salon du Bourget s'ouvre aujourd'hui pour les professionnels. Le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu sur place dans moins d'une heure.
Europe 1.
Et c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
À la une de l'actualité de la presse ce matin, des candidats.
Ah, ce matin, il y a des candidats partout dans vos journaux. D'abord, les candidats du bac. L'heure du bac a sonné, titre le courrier Picard. C'est parti pour la philo, Antoine Lamontagne. Le bac, ça compte encore, se persuade Sud-Ouest. Des candidats, on en trouve aussi à la une du Parisien aujourd'hui en France. Candidat à la mairie de Paris qui se déchire pour l'investiture du parti La République En Marche. Des candidats encore pour succéder à Theresa May. 5 d'entre eux s'affrontaient hier à l'oral à la télévision anglaise, mais sans le favori Boris Johnson, relate Ouest-France.fr. Enfin, candidate à la première place de leur groupe, puisque déjà qualifiée en huitième de finale, les Bleus font-elles vendre, s'interroge ce matin La Voix du Nord. Réponse du Parisien aujourd'hui en France, qui les a mises en une, on les aime déjà. C'est peut-être ça la clé d'une candidature réussie au bac, à la mairie de Paris ou à la popularité, savoir se faire apprécier sur le terrain, à l'oral ou à l'écrit.
Et donc, pour bien démarrer la journée, David, dissertation, vous avez 3 minutes.
Je me dépêche. En introduction, Nikos, j'appellerai l'attention des auditeurs sur la une de La Croix et ce titre, la dissertation, une épreuve. Exercice redouté mais formateur, nous dit le quotidien, la dissertation est l'héritière de la discussion philosophique inventée par un professeur sous le Second Empire et généralisée par l'Inspection Générale de la Troisième République. À l'époque, il s'agissait de lutter déjà contre le bachotage en invitant les élèves à mettre leur savoir en perspective. Et démontrer que la tête est bien faite plutôt que bien remplie, explique Souad Ayada, présidente du Conseil supérieur des programmes. Sauf que, sans connaissance, il n'est pas facile de faire illusion ni de noter cet exercice que certains pédagogues jugent élitiste et plus vraiment adapté à une éducation sans frontières, car la dissertation française n'a pas vraiment d'équivalent étranger. En tout cas, le bac philo inspire les éditorialistes. Parce que qu'est-ce qu'un édito, sinon une dissertation ? On lira pour s'en convaincre celui de Géraldine Baer, qui dans L'Union s'adresse aux émotions du lecteur. Chaque année, des millions de Français passent une semaine difficile. Parents, profs, famille. Souvenez-vous, écrit-elle, en quelle année avez-vous passé le bac ? Quels étaient vos rêves, vos attentes, vos craintes, vous vous rappelez, Nikos ?
Oui, 1987, Arcueil Cachan, le stress.
Vous avez combien en philo ?
Une bonne note, très très bonne note.
15 ou 16. Alors le temps passe, le bac se réforme, écrit-elle, reste l'attachement viscéral à ce moment de l'année qui annonce une nouvelle vie, conclut l'éditorialiste à la fin de sa copie.
Et c'est d'une nouvelle vie qu'il sera question dans un second développement.
Si vous lisez ce matin le magazine Social Terre qui consacre un dossier de 6 pages aux nouveaux bergers, vous apprendrez que beaucoup sont diplômés et bacheliers, tels Elena, titulaire d'un bac scientifique avec mention 2 ans d'études en biologie. Elle a quitté Paris pour la Provence avec une question qui ressemble à un sujet du bac philo. Qu'est-ce que réussir sa vie ? Elle voulait tester ses limites, Elena, s'approcher de la rudesse de l'existence. Elle a trouvé sa voie en passant du temps avec les brebis. Idem pour Sylvain, qui apprécie la paix des montagnes contre l'urgence de la banque. Ça, c'est la thèse de l'article. Mais vient l'antithèse. L'engouement médiatique est tel pour cette école de berger que l'école refuse désormais les demandes de reportage et lutte contre la vision idyllique du métier. C'est un métier de merde, annonce Laurent Four, berger depuis 15 ans. Solitude, alcoolisme, conditions de vie, manque de reconnaissance, les voilà les risques du métier de berger, d'où l'intérêt d'une solide formation pour apprendre, avec ou sans bac, à négocier, s'installer et mettre à l'épreuve sa vocation.
Il va falloir conclure, jeune homme.
Alors je conclue, Nikos, on dira que berger n'est pas une solution à qui n'a pas bien réfléchi au sens de sa vie, pas plus que le bac n'en est une à qui n'a pas songé à son orientation. Quant à la philo, pas besoin du bac pour s'y mettre, on lira pour s'en convaincre les sujets imaginaires proposés par diverses personnalités à Libération.fr. « Suis-je responsable de l'humanité ?» propose Charlotte Kassiragi, princesse de Monaco. « Pourquoi il existe toujours des injustices ?» demande Thibault en classe de CE2. « Mais j'ai un faible pour celui d'Amanda Lear. Peut-on considérer le cannibalisme comme une forme d'amour ?» Autrement dit, l'homme est-il toujours un loup pour l'homme ? Mon cher pâtre grec, vous avez 4 heures.
Je vais rester avec mes chèvres d'abord. Merci beaucoup. C'était David Abiker pour la revue de presse.
8h36, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot, c'est maintenant avec Jérôme Lacroix, Europe 1 et la radio officielle de la compétition.
La Coupe du Monde féminine,
l'événement foot est sur Europe 1.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin,
les Bleus en confiance et en chanson avant d'aborder ce soir le Nigeria. Une dernière rencontre du premier tour non sans intérêt, même si les Français sont déjà qualifiés en huitième de finale. Et la belle histoire des Thaïlandaises, un premier but dans cette Coupe du Monde, ça s'oublie pas.
La Coupe du Monde féminine,
Europe 1, radio officielle.
Happy Day, jour heureux, joueuse heureuse. Vous entendez ici notamment la milieu de terrain Grace Gueyoro, captée lors d'un moment de détente et mise en ligne sur le réseau social Instagram. Alors bon, vous serez d'accord, elle semble sereine, hein, les Françaises à l'aube de Nigeria-France ce soir. Troisième et dernier match du premier tour des Bleus. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, mais qui vise un troisième succès, histoire d'achever la première phase en tête du groupe de qualification. Et entre entraînement et séances vidéo, eh ben, la musique tient une place certaine dans ce groupe outre Happy Day. On entend par exemple ça. Aya Nakamura, la chanteuse, elle fait à peu près l'unanimité dans le groupe. Il y a aussi ça. Le DJ britannique Calvin Harris, ça c'est l'un des titres préférés de la capitaine Amandine Henry. Ces soupapes musicales, ouais, elles sont nécessaires, dit la sélectionneuse Corinne Diacre, qui modestement sur ce coup préfère se placer en position d'observatrice.
Écoutez, pour ma part, je ne me déhanche pas. Non, vous savez, il faut laisser une part de responsabilité et puis de vie commune aux filles. C'est leur truc à elles. C'est aussi bien, ça me permet de connaître un petit peu la musique que peuvent écouter les plus jeunes. Donc c'est toujours intéressant de s'ouvrir.
Toujours à la page Corinne Diacre. Ce soir, la sélectionneuse devrait aligner au coup d'envoi 4 à 5 nouvelles joueuses par rapport au dernier match contre la Norvège, histoire que d'autres se reposent en vue du 8e de finale en fin de semaine. Nigeria-France, soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. Le match se tient à Rennes. Plus de 29 000 spectateurs attendus. Les tribunes du stade seront combles une nouvelle fois.
La belle histoire des joueuses de la Thaïlande.
Et pourtant, elle démarre mal, mon histoire. Elles ont encaissé en deux rencontres 18 buts, 13 contre les États-Unis, 5 hier contre la Suède. Mais en toute fin de partie, hier contre la Suède justement, eh ben elles sont parvenues à inscrire un but qui a été fêté comme une victoire. Les joueuses, les membres du staff sur le bord du terrain, certains étaient en larmes de joie malgré la défaite 5-1. Les gagnantes suédoises sont qualifiées pour les huitièmes de finale, comme par ailleurs les Américaines qui, de leur côté, ont facilement battu les Chiliennes 3-0.
On a démarré en musique, on va finir ce journal des sports avec vous et de la Coupe du Monde en musique. Jérôme.
La joueuse brésilienne Marta, l'une des meilleures attaquantes du monde, qui sait aussi jouer du cavaquinho, sorte de petite guitare d'origine portugaise. Et qui plus est, bah Marta, elle plaide en chanson la cause des femmes ici. Voici le refrain. Et alors, qui a dit que le football n'était pas pour les femmes?
C'était le journal de la Coupe du Monde avec Jérôme Lacroix.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Qui a dit que Cantelou n'était pas au taquet le lundi matin, même quand il fait beau? Il arrive. Elle est déjà là. Je ne sais pas ce que vous regardez sur votre téléphone.
Secret.
Un petit message ma belle-fille.
À votre belle-fille.
Qu'on embrasse.
On l'embrasse aussi. À tout de suite.
Il est 8h42.
Il est là, Nicolas Cantelou, la revue de presse avec Julie. C'est parti.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Cantelou. Et tout de suite, le titre principal de l'actu avec Nikos.
Ouais. Bonjour, ma chère Julie. Bonjour à tous. L'info surround, c'est bien sûr. Que je m'en tape de l'info.
Allez.
Voilà. Oh. Ouais, c'est fini, c'est la quille. Non. Je pars. Au revoir, président. Tiens, papa, mets-moi, Robin, Nico, mettez-moi le son en régie, s'il vous plaît. Au revoir. Ouais, je fais bien. Ouais. Fini, chers auditeurs, de me lever, même si je vous aime, de me lever à 3h du matin. Terminé chaque matin les râteaux que je prends par Hélène Zelandi quand je la drague. Et puis c'est vrai que je vais pouvoir rentrer. Ah, c'est fini de bosser la semaine, c'est fini. Ma fille m'arrêtera de me dire bonjour monsieur quand elle me verra le week-end. Mais bon, ça c'est ma vie prochaine, mais je suis pro jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je vous fais quand même l'info surround du morning de ce matin. C'est le début du baccalauréat ce matin avec l'épreuve de philosophie. Nous avons le sujet en avant-première. Faut-il profiter de la grève des profs qui n'assureront pas la surveillance pour tricher pendant l'épreuve? Bien moi, à titre perso, la réponse c'est « Yes, of course, on triche, ouais !» Alors, je sais que David Doucan m'a posé la question, j'étais un peu perturbé, mais c'est un petit peu présomptueux, il m'a demandé si j'avais eu une bonne note en philo. En fait, j'ai retrouvé, effectivement, j'avais eu, je dis 15-16, je me suis gouré, c'est 21 ou 22, je sais. Allez, à toi, Duke.
Merci Nikos. Allez, on va bien sûr parler des orages qui se sont abattus sur la Drôme en particulier. On se tourne vers notre expert en prévision, notre spécialiste météo. Bonjour Laurent Cabrol. Alors on va faire tout simple, hein, Laurent. Vous l'aviez prédit ou pas ?
Non, j'ai pas envie de tricher moi ce matin avec les auditeurs. Moi j'aime nos auditeurs. Donc alors, disons que comment vous dire, c'est-à-dire que oui, je l'avais dit.
Ah bon
oui, j'avais dit, mais bon, je vais être très franc avec vous, j'avais pas précisé la date, hein, ni le lieu, hein, où ça allait tomber d'ailleurs. Mais j'ai regardé un petit peu les bulletins que j'avais fait sur les 6 derniers mois. Il y a 3 semaines, j'ai prononcé le mot orage, hein, donc quand même quelque part, je l'avais dit. Et puis, oh oui, bon, écoutez-moi, on est pas comme ça, tous, hein, ça va bien. C'est arrivé samedi, hein, je rappelle que moi, je travaillais pas samedi, hein, j'étais pas de garde. Hein, donc, faut voir ça avec ceux qui étaient d'astreinte ce week-end.
Mais enfin, mais c'est pas bon balancer.
Bah oui,
j'aime
pas balancer, mais enfin, c'est Valérie Darmon qui était de garde samedi.
Oh, hein. On va vous balancer, vos collègues. Vous. Non, sérieusement, Laurent, ces gros grêlons, c'est dû à quoi?
Bon, mais j'en sais rien, moi. Là, je suis pas dans la. Moi, j'ai pas la tête dans les nuages. Écoutez, c'est la dépression. Ah, okay. Enfin, la dépression, c'est pas la dépression pour tout le monde, parce qu'il faut faire comme moi. Moi, j'ai trouvé un côté positif. Il faut savoir profiter de chaque situation. Et donc, c'est ce que nous avons fait à la maison. On a mis des verres de pastis dehors. Hein, et les glaçons sont tombés directement du ciel dedans. Ça, c'est assez pratique.
Très pratique, pas mal. Merci Laurent Cabrol. À très bientôt.
Mon Dieu.
Le gouvernement va déclarer l'état de catastrophe naturelle, ce qui est indispensable pour que les personnes sinistrées soient indemnisées le plus vite possible.
Oui, parce que c'est terrible ce que nous avons vécu, Madame Leclerc.
Monsieur Jean-Claude Gaudin, mais vous vouliez témoigner, vous n'étiez pas touché pourtant.
Ouais, bah écoutez, il faut en tout cas, je le dis tout de go, que l'État indemnise Marseille au plus vite. J'ai bientôt fini mon mandat. Donc une petite prime de départ à la retraite ne ferait pas de mal. Je vous entendais parler de grelots de la taille de balles de ping de pong, de balles de golf également, mais ce sont des grelots de la taille de boules de bowling qui se sont abattus durement sur notre belle cité phocéenne. Des grelots, mais oui, monsieur Lagasse, je n'exagère rien. Je ne suis pas comme vous avec vos notes de philo. Ce sont des grelons de 150-200 kilos. Nous avons eu un grelon que nous avons pesé de 224 kilos, qui forment des trous de 30 mètres. Nous avons des trous de 30 mètres de circonférence sur la canne de bière.
Ah oui, oui, oui.
Monsieur Doucard, Monsieur Abiker, Monsieur Apathy, oui. Madame d'Acosta, nous avons vécu l'enfer sur la Canebière.
S'il vous plaît, Monsieur Gaudin, entre le cœur des orages à Romans-sur-Isère et Marseille, il y a 234 kilomètres.
Oui, et alors, qu'est-ce que vous insinuez? Vous y étiez, vous, à Marseille, ce week-end, pour voir s'il n'y avait pas de grêlons sur la Canebière? Je peux vous dire qu'avec le Mistral qui soufflait, les grêlons sont tous tombés. Mais oui, ils ne sont pas tombés en ligne droite, ils étaient en diagonale avec le vent. Donc ils se sont décalés et ils sont arrivés chez nous.
D'accord.
Vous voulez quoi? Priver les Marseillais de leur indemnité pour une poignée de kilomètres, ça? C'est très moche ce que vous faites, Madame Leclerc. Non. Vous devriez être débarqué pour une telle attitude.
Oh, bah, oh, tiens. Non, Jean-Claude Gaudin, ça va pas, non?
Ah, ça ne vous fait pas rire, ce sujet-là, surtout en période de mercato.
Monsieur Gaudin, on vous aime beaucoup, mais on aurait aimé le témoignage d'un maire dont la ville mérite vraiment le statut de catastrophe naturelle, ce qui n'est pas le cas à Marseille.
Écoutez, alors ça tombe bien.
Ah, tiens, Patrick Balkany, bonjour.
Bonjour, je me représente, Patrick Balkany, je suis maire de Levallois-Perret, une petite commune de la Drôme. Donc, et nous avons été dévastés par ces orages de grêlons de la taille de lingots d'or de 5 kilos. Hein, oui, je connais. Écoutez, oui, donc si nous pouvions avoir une aide urgente de l'État, de préférence en cash, hein, dans une valise en fin de matinée, ce serait parfait. Et je m'engage à la remettre en main propre ou quasiment au cultivateur d'abricots de Levallois-Perret dans la Drôme.
Monsieur Balkany, Levallois-Perret, c'est pas la Drôme, c'est les Hauts-de-Seine. Il y a 618 kilomètres entre Levallois-Perret et la Drôme. Bah, c'est encore pire que pour Jean-Claude Gaudin, alors arrêtez, s'il vous plaît.
Oh merde. Oui, puis c'est vrai que l'excuse du Mistral marche moyen pour Levallois-Perret.
Ah, certain.
Isabelle, Isabelle, Isa, je me suis fait gauler. Enfin, on s'est fait gauler. Est-ce que tu veux bien boire une petite bouteille de desktop, s'il te plaît? Ça pourrait nous arranger pour le procès.
Non, non, mais écoutez, non, vous n'allez pas remettre ça. On vous laisse. Hein. Merci, merci beaucoup, Patrick Balkany. Notre-Dame de Paris a accueilli ce week-end sa première messe depuis l'incendie. Bonjour Bertrand Delanoë.
Bonjour chère Julie.
Bonjour.
Bonjour à tous. Ça va Meloukoum, ça va?
Oui.
Oh, mais quelle tristesse. Quelle tristesse, ce monument tout cramé qui s'arrête.
Mais non, bah justement, elle s'arrête pas, Notre-Dame. Au contraire, elle renaît de ses cendres.
Non, mais tout cramé qui s'arrête. Non, je parlais de Monsieur Liagas.
Oh, mais je l'ai entendu, celle-là. Oh là là. Je savais qu'elle était pour moi. Cramé, non, bronzage, écoutez, monument, vieillesse. Merci. Louis.
C'est allez, bien, vous allez vite dans votre cerveau, monsieur Régal.
Allez, restons sur Notre-Dame de Paris et sa première messe. Hein. Seulement 30 personnes pouvaient y assister, d'ailleurs.
Oui, mais écoutez, ça n'est pas grave parce que j'ai le texte de cette messe.
Ah bon?
Ne me demandez pas comment j'ai fait pour la voir.
Bah, j'aimerais bien savoir, moi.
Bon, alors très bien. Écoutez, je vous le dis, il se trouve que j'ai un ami... Jean Touffi.
Ah oui, Jean Touffe.
Oui, Jean Touffe. Oh, vous connaissez Jean Touffe.
On va vous en parler tout le temps.
Oui, enfin, Jean Touffe, oui. Mon fidèle bras droit, mm-hmm. a été enfant de cœur.
Ah, d'accord.
Et il a connu intimement le curé de Notre-Dame.
Oh, non, arrêtez.
Il garde des liens très forts avec lui. Bref, j'ai le texte de la messe. Mm. Voulez-vous que je vous le narre?
Oh, bah, allez-y, hein, vous êtes d'accord, là, autour de la table. Oui, allez, on vous écoute, Bertrand. Risques, hein.
Alors, 3-4. Notre Père qui êtes aux cieux, est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon rationnelle, espèce d'andouille, pourquoi que tu crames ta propre baraque? Si tu avais envie d'emmerder ou de punir des gens, ne penses-tu pas que ce serait plus du côté des dictateurs africains qui affament leur peuple ou des combattants Daesh qui ont 2-3 trucs à se reprocher qu'il fallait aller cramer leur charpente? Soit dit en passant, cher Jésus, toi dont le père était charpentier,
ah bah oui.
Pourquoi, comme de par hasard, t'es-tu attaqué à la charpente de Notre-Dame? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'arnaque à l'assurance pour filer le marché à ton père charpentier? Ou de corruption pour favoriser les marchés publics? Oh. Amen.
Amen, oui, allez, c'est bon, à bientôt, Bertrand.
De la prière.
Mot pour mot.
Oui, oui, c'est ça. Allez, on va terminer avec Laetitia Hallyday. Elle est en France en ce moment, un samedi. On était le 15 juin, date de l'anniversaire de Johnny. Elle a inauguré une place Johnny Hallyday à Toulouse. Bonjour Laetitia.
Ah oui, c'était un moment tellement émouvant qu'une ville française ait décidé comme ça, comme Toulouse, de rendre hommage à ce chanteur américain. Je trouve que c'est une belle image d'échange entre les peuples.
Non mais attendez, arrêtez avec ça. Johnny n'était pas américain, vous l'avez déclaré vous-même. Il adorait manger du cassoulet à Toulouse. C'est vous qui l'avez dit.
Ah oui, je me rappelle, il disait avec son accent américain, j'adore le cassoulet. Oui, et puis le mot Toulouse l'amusait beaucoup parce qu'en anglais, Toulouse, c'est perdre.
Oui, c'est
à ces Américains, ils sont marrants.
Oh, ils sont irrésistibles, sauf que Johnny n'était pas américain.
Oui, oui, bah écoute, il n'était pas toulousain non plus. Hein? Alors pourquoi ils lui ont filé une place?
Bon, en fait, c'est pas vraiment une place, c'est une esplanade devant le Zénith de Toulouse. Voilà,
oui, ça. Voilà, une esplanade. Oui, c'est une esplanade devant le Zénith, j'ai vu ça. Oui, j'ai donc déposé, ben voilà, une gerbe à l'endroit même où Johnny l'avait fait en sortant du Zénith de Toulouse.
Ah non, s'il vous plaît.
Mais si, Nico, c'était en mai 88. Il avait picolé dans la loge avec Claude Nougaro. Il a rendu ce cassoulet.
Oh non, arrête. Devant le Zénith.
Bon appétit, bon esprit à tous.
Alors samedi, David Hallyday s'est excusé. Il ne pouvait pas être présent. Il était au mariage de sa sœur Laura.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, le petit bâtard, oui, comme par hasard. Laura qui se marie le jour de l'anniversaire de Johnny. Je suis sûr qu'elle s'est mariée dans une décharge avec un buffet vide, sans gâteau, sans musique et juste une banderole. Désolée, j'ai plus de sous.
Ah, génial. Bravo, Nico.
Nicolas Canteloup, la revue de presse que tous les jours dans la matinale. Un coup de projecteur pour rire, sourire et le partager. Merci beaucoup. À demain. Wendy Bouchard, le tour de la question.
Bonjour à tous, absolument. Ce soir, nouveau match des Bleus. Bonjour mon cher Nico. Suivez-vous cette Coupe du Monde féminine et comment on explique cet engouement entre 9 à 10 millions de téléspectateurs à chaque fois? C'est magnifique. Quid aussi du foot féminin en dehors de cette grande compétition? Puis à partir de 10h, pourquoi les procès des stars nous fascinent autant? Nous parlerons de Jean Gabin, de Michael Jackson, de Bertrand Cantat, de Johnny Hallyday, Star à la barre, un ouvrage judiciaire, mais aussi un peu people avec l'avocat spécialiste Emmanuel Pierrat.
Jean Gabin.
Ah oui, vous allez en entendre des choses. Jean Gabin, encerclé un beau jour par 700 agriculteurs dans l'Orne, là où il avait une maison. C'est quelque chose, c'était il y a 60 ans.
J'ai hâte d'écouter. Alors merci beaucoup, Wendy Bouchard, à partir de 9h.
Il est 8h56 à suivre l'essentiel de la matinale, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabre-Nicos.
Laurent Cabrol, il fait beau, mais apparemment pas longtemps, il faut en profiter.
Ouais, faut en profiter, effectivement. Du grand beau temps aujourd'hui, avec pratiquement rien à dire en ce qui concerne la couleur du ciel. Ce sera presque un ciel limpide partout. Il fera 20 degrés au Guilvinec, il en fera 21 degrés à Deauville, 24 à Roscoff, 25 à Pontivy, 26 à Lille, 27 à Paris, Nantes, Nancy, Colmar, 28 à Marseille, à Poitiers, 29 à Vierzon, 30 à Lyon, 32 à Toulouse et 33 degrés à Orange et Montélimar. Demain, les premiers orages apparaîtront en Bretagne, mais seulement en Bretagne. Et mercredi et jeudi, les orages vont traverser tout le pays. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Seligas.
L'essentiel de la matinale, avec tout d'abord le grand jour pour tous les candidats du bac. On pense à eux ce matin. Ils passent en ce moment l'épreuve de philo. Ça a commencé depuis moins d'une heure. Bon courage à tous. Et puis l'état de catastrophe naturelle qui devrait être déclaré d'ici peu après les violents orages qui ont ravagé de nombreuses cultures dans la région de la Drôme. Pour beaucoup de producteurs, la récolte des fruits devait commencer ce matin. Mais tout a été détruit. Écoutez le témoignage d'Aurélien, saisissant et émouvant, dans le journal de 7h.
Tout est fini, j'ai perdu toute ma récolte. On avait espoir de sauver encore quelques abricots, mais c'est tout foutu. Les pommes, c'est haché, c'est plié. Il n'y a plus rien à faire. Cette année, j'avais fait le choix de m'enlever de mon assurance. Voilà, parce que tout simplement, je n'avais pas le choix. Donc, je ne vais pas appeler mon assurance, parce qu'elle va me dire, mais oui, mais monsieur l'esprit, vous n'étiez pas assuré. Voilà, c'est bien ça, la grosse aussi inquiétude.
Dans un autre registre, le carton inattendu de la Coupe du Monde féminine de foot, match à guichet fermé, audience télé record, le succès dépasse toutes les prévisions, de quoi donner le sourire aux bénévoles et aux commerçants comme à Reims. Écoutez, c'était à 7h20 dans Europe 1 va plus loin.
Au fil des matchs, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus au courant qu'il y a la Coupe du Monde et s'y intéressent de plus en plus.
Ça se passe très très bien pour nous, super retombée. Je pensais pas que ça allait ramener autant de monde que ça. Tout le monde est joyeux, c'est bon enfant, ça monte en puissance.
Ça monte en puissance et ça fait du bien. Et ce soir, vous allez pouvoir suivre le match des Bleus. Nos filles affrontent le Nigeria, soirée à suivre dès 20h sur notre antenne avec Lionel Rousseau. Voilà pour l'essentiel, profitez du soleil. Il l'a dit, Laurent Cabrol, ça ne va pas nécessairement durer, mais bon, tant que c'est là, chaque instant compte. Et avec vous aussi, chaque instant compte. Merci de votre fidélité. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1, prenez soin de vous. Elle arrive, Wendy Bouchard, avec son tour de la question. 2 heures passionnantes à partager au 39-21. Tout de suite.
Merci,
à demain.
Merci, à demain, Nikos. Ciao.